Bonjour, je suis David Manise, instructeur de survie, anthropologue du mouton à cinq pattes professionnel. Vous écoutez le podcast Le Survivologue, épisode 14. Une des choses que j'aime souvent dire, c'est on est trop pauvre pour acheter de la merde. Pas seulement parce que les outils, les objets, chaussures, vêtements, etc. de bonne qualité durent plus longtemps et donc reviennent au final moins cher, mais aussi parce que c'est des outils qui fonctionnent mieux et qui permettent de mieux vivre dedans, d'être plus efficace. Last but not least, quand on achète un objet de vraiment bonne qualité, un outil durable, on n'a pas besoin d'en racheter souvent et donc on pollue moins notre planète. Et donc en avril, j'ai eu le plaisir d'interviewer Benoît Wojtenka de la chaîne de magasins et du blog Bonne Gueule. Alors pour la petite histoire, j'ai fait sa connaissance par l'intermédiaire d'une de ses vidéos sur les systèmes de vêtements grâce à Killbit du forum Vie Sauvage et Survie qui discutait avec lui dans les commentaires. Je le salue au passage. D'ailleurs, ce Killbit, c'est un puits de science dans plein de domaines. Et puis, il m'a appris un milliard de trucs, notamment sur les vêtements, les couches de vêtements, les fibres, les interactions, etc. Et bref, donc on a pris contact comme ça avec Benoît dans les commentaires de la vidéo en question. Et puis, de fil en aiguille, Benoît est venu faire un stage au CETS. Et là, on se retrouve à parler chiffon sur le podcast. J'aime beaucoup sa philosophie du vêtement. J'aime beaucoup l'éthique qui va avec et puis son souci de la perfection, de la bonne qualité. Et j'aime beaucoup les vêtements bonne gueule aussi d'ailleurs. Donc voilà, l'interview date déjà un petit peu. J'avais beaucoup de podcasts déjà enregistrés avant de publier celui-ci. Donc ça décale un peu quand on parle de saison, on parle du printemps pour le coup. Mais bref, vous allez facilement replacer dans le contexte. Et je suis vraiment content de pouvoir enfin vous le faire découvrir et faire découvrir le personnage et son travail, parce qu'au final, c'est vraiment pas si éloigné de nos préoccupations qu'on pourrait le croire. Bienvenue Benoît, merci de venir nous rencontrer aujourd'hui.
Merci David, merci de me recevoir et bienvenue. Mais du coup, tu es dans nos bureaux là, donc
yes.
Une petite partie.
Génial, peut-être que j'irai les voir un jour en vrai, sait-on jamais.
Mais si tu viens à Paris, tu me dis. Hein.
Carrément. Dis-moi, Benoît, est-ce que tu voudrais bien te présenter un peu, nous raconter un peu ce que tu fais? Parce
oui.
Que dans mon milieu, entre guillemets, de gens qui s'intéressent à la survie et à la nature, etc., on est un peu en dehors de notre zone de confort aujourd'hui. Et donc, j'aimerais bien que tu te présentes, s'il te plaît.
Oui, ben donc je m'appelle Benoît. En 2007, j'ai fondé un blog sur le vêtement masculin. Sur le vêtement urbain, je précise, parce que je ne parle pas de vêtements pour des conditions de... En tout cas, à cette époque-là, je ne parlais pas de vêtements pour des conditions un peu extrêmes. Donc ce blog, c'était sur un ton vraiment hyper... avec beaucoup de pédagogie. Moi, je suis quelqu'un un peu comme toi qui aime bien creuser les sujets, qui est très curieux, qui aime bien se renseigner, qui aime bien passer des heures et des heures sur des forums. Je pense que tu vois très bien le profil. Et c'est vrai que c'était une époque où il y avait très peu d'informations sur le vêtement masculin, sur ne serait-ce comment est-ce qu'on fait pour choisir une chemise pour homme. Quand est-ce que je sais que la chemise me va bien, quand est-ce qu'elle me va mal, quelle matière, qu'est-ce qu'un beau tissu, qu'est-ce qu'un jean de qualité, parce que je sais que tu as eu cette problématique, qu'est-ce qu'une belle toile, etc. Et donc de suite, c'est un site qui a trouvé son audience. Et pour la faire ensuite très court, on a commencé à le monétiser en vendant un e-book, un PDF, donc de 200 pages. C'était en 2012, c'était il y a 10 ans, ça passe vite. Et après, en 2000, je crois que c'était 2013, on a vendu aussi une formation en ligne avec plein de vidéos sur comment choisir un jean, des chaussures, comment on assemble les couleurs, etc. Et ensuite, en 2014, le grand tournant, ça a été qu'on a lancé notre propre marque de vêtements, donc qui s'appelle Bonne Gueule. Et qui aujourd'hui on a une cinquantaine de salariés et on a deux boutiques à Paris, une à Lyon, une à Bordeaux, une à Lille, Nantes-Rennes, et on est en train d'ouvrir Strasbourg et Toulouse sur une garde-robe masculine, même si on commence à faire la femme, mais si on a une garde-robe pour on fait avant tout de l'homme sur des vêtements qui sont faciles à porter, urbains, quotidiens, mais avec toujours j'irai un gros soin sur les matières. Moi j'aime beaucoup les laines de chez Jules Tournier, qui est un fournisseur français. Ça, c'est une veste en canva japonais, les toiles de jean japonaises également, les mailles italiennes. Donc, j'ai vraiment un truc avec les beaux tissus. J'aime quand il y a du grain, de la texture et quand ça se patine.
Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué quand je me suis intéressé à ce que tu faisais. C'est vraiment ce souci de la qualité et enfin, un concept qui est cher à mon cœur, c'est le low-tech. Mais le low-tech de bonne facture, tu vois, le low-tech de qualité. Et j'ai
Ok.
l'impression qu'on se rejoint un peu là-dessus.
Le vêtement perle.
Ouais, exactement.
Ouais, effectivement. Ben alors, même si peut-être qu'on en parlera plus tard, j'ai une grande passion pour le vêtement technique, effectivement. Mais c'est vrai que de base, moi, j'aime les belles matières simples, authentiques, qui se patinent bien dans le temps, qui vieillissent bien. Les beaux draps de laine, les beaux canevas, les belles toiles de Nîmes, parce que pour moi, un vêtement, plus il vieillit, plus il va devenir beau, en fait. Comme un cachemire écossais, parce que j'aime bien le cachemire aussi. Et ouais, donc comme le ventile aussi, une matière qui est un peu entre nos deux univers, hein,
Ouais, clairement.
qu'on a un petit peu travaillé chez Bonne Gueule. Donc effectivement, et pour ça, bah, tu es obligé d'avoir des belles matières bien faites.
Qu'est-ce que, enfin, est-ce que tu serais d'accord pour nous raconter un peu ton parcours parce que ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment tu en es venu en fait à faire ces choix-là, tu vois. Comment ça s'est construit pour toi, ces choix éthiques et ces choix de tissu et ce goût pour le...
Pour le vêtement,
Ouais.
ben, si on remonte, enfin, il y a eu quand même un tournant en 2011 où en fait on m'a posé un pacemaker. Ben, je sais pas si c'est toi qui lis les fiches de santé pour faire les stages de survie, mais je l'avais bien mis dans ma fiche, hein, ne t'inquiète pas. Et ouais, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, et c'est à ce moment-là, c'était un peu un déclic où c'était une époque où je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Et je me suis dit, bon, ben, c'est maintenant où il faut tout donner pour avoir une vie qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie de vivre. Et donc, c'est là où ça a été la première décision où on s'est dit, avec Geoffrey, mon associé, que j'ai rencontré il y a plus de 10 ans, on s'est dit, c'est maintenant, on donne tout pour Bonne Gueule. Et alors, ensuite, sur ce goût pour les belles matières, etc., moi, je viens d'une famille qui n'est pas du tout dans le vêtement, vraiment. Mais mon père travaillait dans la recherche, par exemple. Ouais, j'ai deux parents fonctionnaires, donc aucun vraiment un intérêt spécial pour le vêtement. Et je ne saurais pas expliquer, c'est que moi, quand j'ai des artisans du vêtement, quand j'ai des tisseurs qui déploient parfois des efforts colossaux pour sauvegarder des savoir-faire, pour mettre en avant ce qu'ils savent faire, pour sensibiliser les gens à pourquoi un tissu, ben oui, il est plus cher qu'un homme, mais en échange, il y a ça, enfin, tout ce côté savoir-faire. Je me suis, je pense, senti un petit peu investi et ça, je devais le transmettre. Tout ce que je savais, je devais vraiment le transmettre en essayant de le faire assez local. Donc, on fait très peu de made in France, mais toutes nos productions sont en Europe. Donc, tu vois, j'avais cette envie aussi d'avoir un impact positif en faisant des matières responsables, des matières qui viennent de pays vraiment développés comme la France, l'Italie, le Portugal, le Japon, l'Angleterre, etc. Et faire ça en Europe parce que pour moi, je considère qu'un vêtement, il est réussi si effectivement il y a une bonne coupe et un bon tissu, mais si l'aventure humaine derrière ce vêtement aussi, elle doit être réussie. Ce qui à un moment est un peu compliqué avec tout le contexte.
Oui, j'imagine. Et c'est quelque chose qui m'a touché aussi en voyant ce que tu faisais, c'est ce souci éthique en fait autour du vêtement, mais de toute la filière au final, dans la mesure du possible, d'aller quasiment de la fibre ou du producteur de la fibre jusqu'au magasin, quoi.
Oui, bah, il y avait une envie de. En fait, c'était moi en tant que client, quand j'allais dans certaines boutiques, j'étais frustré de ne pas avoir toute l'info. Vraiment. Et je me suis dit, si un jour j'ai une marque de vêtements, bah, je donnerai toute l'info que le Benoît, avant, comme client, il aurait aimé avoir. Et c'est pour ça que je pense qu'en France, on a été, je pense, précurseur sur la manière de parler du vêtement en étant effectivement assez transparent. Quand on peut, parce que ça reste quand même une industrie qui est sous certains aspects qui est un petit peu opaque, quand on peut, on dit de quel pays vient la fibre, où est-ce qu'elle est filée puis tissée, où est-ce que le vêtement est fabriqué, d'où viennent les boutons, etc. Tout simplement parce que c'est quelque chose que moi j'aime savoir en tant que client qui aime bien creuser.
Ouais. Mais je pose des questions peut-être un peu perso, mais et tu me dis si tu veux pas, et je couperai au montage. Mais quel est le rapport entre le moment où tu t'es fait poser un pacemaker
Oui.
et cette posture?
C'est une très bonne question. Ben, je dirais que c'est effectivement non, sur un sujet un peu personnel, mais quand on met un pacemaker Et tu le sens tous les jours parce que tu as un corps étranger sous la peau. Hein. Quand tu sens ta main, tous les jours, il se rappelle à toi. Bah, tu as envie d'avoir une vie qui vaut le coup. Moi, ma philosophie, c'est qu'une vie qui vaut le coup, bah, elle ne peut pas se faire si tu n'as pas un bon impact sur le monde. Tu vois, tu peux pas. Moi, j'ai un copain qui dit qui sa philosophie de vie, c'est vivre comme si c'était mon dernier jour et vivre comme si je devais vivre 1000 ans. Et j'aime bien ce côté non-duel entre ces deux choses-là. C'est un copain qui fait une très bonne marque de thé matcha bio qui s'appelle Kumiko d'ailleurs. Et ouais, parce que lui aussi, il a eu d'ailleurs un petit problème cardiaque et je me reconnais beaucoup dans ça. À la fois, il faut profiter, il faut vraiment voilà, la gratitude, le présent. Et d'un autre côté, il faut aussi penser au futur et penser à son impact.
Si tu me permets, je vais raconter une anecdote de ma vie à moi.
Oui.
J'avais 6 ans et j'avais une angine et du coup, je me suis fait une dose d'antibiotiques de trop et j'ai fait une énorme réaction allergique.
Oh.
Et donc, Elephant Man, Edème de Quink et tout. Et je me suis retrouvé donc aux urgences à être littéralement entre la vie et la mort. Ils m'ont fait des shoots d'adrénaline et tout ça. Et pour finir, ils m'ont mis carrément la. Comme dans Pulp Fiction, l'adrénaline en intra cardiaque avec la grosse seringue. Et
Ah ouais, ils l'ont
pour
fait.
finir, ouais, enfin, c'est un peu plus technique que ça. C'est pas genre pouf comme ça, mais. Et le lendemain, je me suis réveillé parce que je suis tombé dans les pommes à ce moment-là. Et donc à 6 ans et demi, je me suis dit, merde, je vais mourir un jour, peut-être demain, peut-être dans une semaine, peut-être dans 10 jours, peut-être dans 70 ans. Et à partir de là, ma vie a basculé aussi en mode. Bah, il n'y a pas moyen que je gaspille le temps que j'ai, tu vois.
Dès 6 ans, tu avais cette
Ouais.
philosophie de vie? Ah
Un peu plus tard, il m'a fallu un temps pour processer l'info, tu vois,
ouais.
parce que c'est trop flippant à 6 ans de se dire on va mourir. Mais il m'a fallu assez peu de temps au final pour admettre l'idée. À partir de là, j'ai été ingérable, évidemment, parce que quand je n'avais pas envie de faire un devoir de maths, il n'y avait pas moyen de m'obliger à faire quoi que ce soit, tu vois.
Ouais.
Et j'ai un peu comme toi eu envie de mettre de la conscience et de l'importance à chaque chose que je faisais, que ce soit pour kiffer ou que ce soit pour avoir un impact sur le monde. Et ça s'est construit évidemment dans le temps, mais ça me parle à fond ce que tu dis. C'est pour ça que je te posais la question, tu vois, parce qu'il y a eu je sens vraiment le moment charnière à cet endroit-là et je trouve ça beau en fait.
Moi, c'est pour ça que j'aime bien tes contenus, parce que je sens que tu es quelqu'un qui a fait quand même qui a un beau cheminement personnel, j'ai l'impression. Je ne sais pas exactement quelles sont les étapes, mais tu vois, ça change et moi, ça me fait du bien parce que tu es dans un milieu où parfois qui est très politisé, il faut apprendre des techniques de survie parce qu'il faut se protéger des méchants. Là, tu mets ce que tu veux derrière les méchants.
Ben
Extraterrestres, zombies, politiques, etc. Et ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui a une approche beaucoup plus bienveillante et plus cool et sérieuse à la fois, le côté non-duel. Et ça me parle beaucoup.
ouais, carrément. Et je pense pas, enfin, moi je fais pas tout ça parce que j'ai peur de la fin du monde ou des zombies garous, tu vois. Je fais ça essentiellement parce que j'aime bien les humains et j'aime bien qu'ils vivent longtemps, point barre. Bref. On va
Ouais.
pas s'étendre là-dessus parce que les gens qui me suivent, je pense, sont plus ou moins au courant, mais bref.
Et moi, j'avais une question avant que tu me
Ouais.
poses. C'est que justement, pour toi, le vêtement, est-ce que tu le vois vraiment comme un équipement, c'est-à-dire pour pas avoir trop chaud, trop froid, pas être mouillé, mais est-ce que pour toi, ça peut vraiment être source de plaisir, de kiff?
Eh bien, je pense que ma réponse risque de te plaire, c'est que je ne peux pas distinguer les deux, tu vois.
Ok.
Il y a vraiment ce côté non-duel, justement, c'est que je peux pas trouver un vêtement beau ou je peux pas kiffer porter un vêtement si je ne suis pas confortable dedans, si je ne trouve pas pratique, si je ne trouve pas des qualités fonctionnelles en même temps.
D'accord.
Et inversement, je peux trouver des vêtements hyper fonctionnels. Par exemple, mon vieux pantalon de karaté, tu vois, qui est ultra confortable, indestructible, que je mets pour traîner à la maison, il a bientôt 20 ans, le machin, et c'est de la grosse toile japonaise, justement, donc vraiment indestructible.
Ouais.
Mais je le porterai pas autrement, tu vois, j'irai pas dehors avec. Pour moi, le vêtement, ça, idéalement, ça doit être les deux. C'est-à-dire, ça doit être agréable et fonctionnel. Ça doit être à la fois une protection contre les éléments ou contre le vent, ou contre la pluie, ou contre le froid, ou je sais pas quoi. Et pratique et ergonomique et éthique, évidemment. Donc, j'arrive pas à distinguer les deux. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. C'est que pour moi, même le côté esthétique ou le côté agréable d'un vêtement a une composante fonctionnelle, tu vois. Le fait, tiens, par exemple concret, je me suis retrouvé à devoir aller à Paris dans les ministères, etc., il y a assez peu de temps, et je me suis retrouvé vraiment comme un con parce que j'avais que des vieux jeans pourris et des vêtements pour aller faire des stages et jouer dehors et bricoler, tu vois, j'avais pas de vêtements propres. Et du coup, je suis vite allé faire un tour sur ton site d'ailleurs, mais j'ai pas trouvé de truc qui m'allait en termes de taille. Donc, faudrait que je fasse une réclamation.
Oui, parce que je crois que tu fais plus de, enfin, tu fais plus d'1,90 m.
Non, je ne fais pas 1,90 m, je fais plutôt 1,83 m, 1,85 m selon le niveau d'hydratation. Mais j'ai une morphologie complètement atypique où j'ai des cuisses démesurées
Ah ouais, ok,
et tout ça. Et...
ça c'est mon cauchemar, effectivement.
Voilà, je suis impossible à, enfin, sauf sur des trucs sur mesure, avoir un vêtement qui a de la gueule sur moi, c'est vraiment très compliqué.
Mais parce que c'était
Mais
ma question, est-ce que tu pourrais porter une chemise qui est juste belle et pas forcément fonctionnelle? Tu vois, où tu n'as pas de poche-poitrine.
ah oui, bah, je vais trouver d'autres solutions. Si c'est qu'un problème de poche, ça, c'est pas un souci. Et si elle est juste belle, bien sûr, je vais pouvoir la mettre dans un dans. Mais sa fonction, du coup, ce sera d'être belle
Ok.
dans un contexte précis, tu vois.
Ok, je comprends.
Voilà. Et d'être classe, et d'être un marqueur social, d'appartenance, machin, tout ce que tu veux.
De pouvoir aller au ministère avec.
Voilà, et de pas avoir l'air d'un clodo à côté des gens qui m'accompagnent. Mais bon. Pourquoi tu as choisi ce côté éthique, durable, qu'est-ce qui t'anime en fait derrière tout ça dans est-ce que enfin
Mais tu t'aperçois que si tu veux un beau vêtement, t'as pas le choix en fait.
ouais.
C'est juste aussi simple que ça. Si tu veux un vêtement qui vieillit bien, il faut un beau tissu. Donc, si tu veux un beau tissu, il faut qu'il soit tissé correctement par des gens qui ont un savoir-faire, donc payé à leur juste valeur. Donc, si tu veux ça, il faut aussi qu'il y ait une belle fibre. Donc, pour qu'il y ait une belle fibre, il faut que le coton soit cultivé comme ça. Enfin, c'est
Mais
juste pas possible autrement. Tu peux pas. Parce que tu vois, moi, ça fait depuis ouais, 10 ans où on fait vraiment des vêtements. Et c'est vrai que des cartes de tissu, enfin des échantillons de tissu, j'en ai vu, mais à tous les prix différents. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de secret, quoi. Tous les tissus qui viennent enfin, tous les tissus qui sont très peu chers, ça manque d'âme, il manque ce petit quelque chose en plus qui me fait vibrer. Tu vois,
complètement.
tu as un truc qui est beaucoup trop passe-partout. Donc, moi, c'était juste que je n'avais pas le choix. C'est-à-dire que si je voulais vraiment des beaux vêtements, eh ben, tu es obligé d'avoir des. Il faut qu'il y ait de l'éthique derrière, sinon ça peut pas marcher.
Ouais, il y a une cohérence d'un bout à l'autre de la chaîne.
Exactement.
Mon grand-père, qui était donc bûcheron pendant l'hiver au
Ouais.
Québec, et donc mon grand-père honoré.
C'est lui qui. Il y a la photo dans Quick and Dirty, c'est ça?
Juste.
Ok.
Et donc il était bûcheron l'hiver et il était guide de pêche au saumon l'été. Et il avait une veste Filson.
Ah
Enfin, je
oui.
suis pas sûr, mais je crois que c'était une veste Filson.
Ah ouais, à l'époque, ouais.
Qu'il avait payé l'équivalent d'un mois de salaire, tu vois, c'était hors de prix pour lui à l'époque. Et il a bûcheronné, il a été bûcheron pendant 40 ans et il a fait pendant 40 ans guide de pêche quasiment. Et il a porté cette veste, été comme hiver, tous les jours. OK? Et après, mon oncle l'a récupéré et il a dû changer enfin, il a rajouté un zip. Et il a changé deux, trois boutons pression qui étaient trop usés, qui tenaient plus. Il a rajouté un petit. Il y avait une espèce de trou d'usure à un endroit à côté de la poche poitrine. Donc il a mis une pièce. Et il a porté 15 ans facile et il a filé à mon cousin, tu vois. Et la veste, elle tourne encore. Et nous, on attend patiemment que le cousin il passe l'arme à gauche pour pouvoir piquer la veste comme des hyènes, tu vois, parce qu'elle a une gueule d'enfer, cette veste.
Ah ouais, la
Elle a
patine.
60 ans de patine, tu vois.
Ben, le seul article en français où je visite l'usine Filson, enfin, c'est moi qui l'ai écrit.
Pardon, j'ai pas compris.
J'ai écrit le seul article en français où je visite l'usine Filson.
Non, c'est vrai.
Si, ouais, en 2012, on est allé chez Levi's voir le plus vieux jean au monde. Et dans la foulée, on avait visité l'usine Filson qui est à Portland, je crois. Non,
Ouais.
ouais, non, Seattle, Seattle.
À Seattle, ouais.
Ouais, donc il y a un seul article en français qui date de 10 ans, c'est moi qui l'ai fait. Ben voilà, tu me demandais qu'est-ce qui m'anime. Ça, je suis
Bah, on
très
est d'accord.
fier. Ça, je suis
Tu
très
m'étonnes.
fier, tu vois, d'avoir produit de la connaissance en français et que je suis le seul à avoir pu produire, tu vois, pour des gens comme toi qui veulent creuser, bah, ils auront quelque chose. Mais ouais, c'était la visite de l'usine Filson, c'est quelque chose.
Bah, j'imagine, parce qu'il y a, y a tout un savoir-faire et toute une, enfin, comme, exactement comme toi, t'as le, ils ont de la fibre parce qu'ils utilisent du coton américain, si je me trompe pas,
Ouais.
et ils partent d'un bout à l'autre de la chaîne, et bon, c'est hyper cher, mais franchement, moi, j'ai deux, trois articles Filson. J'avais acheté une veste Filson, la même que mon grand-père, mais elle était trop petite, du coup, je l'ai filée à mon fils. Mais bref.
Alors ça s'est fait racheter un Filson par un fonds, donc je
Ah
sais
oui.
pas où est-ce qu'il s'en est niveau qualité en ce moment. Mais les prix ont beaucoup augmenté, j'ai vu.
Cas, la dernière veste que j'ai achetée, elle était apparemment encore d'aussi bonne qualité et vraiment top. Mais bref. Pour l'anecdote, donc j'ai entendu, j'ai entendu parler de toi, donc ce que je te disais avant qu'on commence à enregistrer.
Ouais.
Via ta chaîne YouTube, entre autres, et tu nous citais, enfin, tu citais le forum Vie sauvage et survie, et notamment Didier, à savoir Killbit ou Did, ou je ne sais pas comment, je me souviens plus du pseudo qu'il utilisait dans les commentaires, ou quand tu parlais des systèmes de vêtements, notamment militaires. Il avait fait une longue intervention dans les commentaires sur ta chaîne, sur cette vidéo, et bref, donc j'ai entendu, enfin, je me suis rendu compte que tu t'intéressais aux vêtements, non seulement d'une place esthétique, mais aussi d'une place
Ouais.
fonctionnelle et en termes de système. Et d'ailleurs, je tiens à saluer donc Killbit, qui a été vraiment pour moi une source documentaire, une source de connaissances énorme
C'est
pour
impressionnant. Ouais.
ce mec est un puits de science du vêtement
C'est incroyable.
assez
Ouais.
incroyable. Et c'est grâce à lui que notre module fringue et notre module fringue dans les stages de survie est aussi abouti, entre guillemets, parce que
Ce qui est
c'est...
très très bien, ça je voulais te le dire. Franchement, c'est j'avais peur que ça soit un truc qu'on nous parle du système trois couches à la con, mais j'étais honnêtement en tant le enfin, ça tire sur une heure. Moi qui me suis beaucoup penché dessus, j'ai conscience de la valeur d'un tel condensé qui est aussi vraiment pertinent. Tu peux dire bravo parce qu'il est vraiment top ce module vêtement,
Eh ben merci. Venant de toi, je prends ça comme un énorme compliment.
ouais.
Et donc ouais, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te plaît dans cette histoire de système de vêtements, du coup, parce que si tu cherches a priori un vêtement d'abord esthétique, d'abord beau, d'abord agréable, ou je sais pas quoi, pourquoi tu t'es intéressé du coup à la technique dessous, quoi?
Aux vêtements techniques, tu veux dire?
Ouais, mais à l'aspect fonctionnel et de
Ouais.
système de couches, etc.
Bah, je crois que, enfin, moi j'aime le vêtement militaire moderne, pas le vintage, hein. Enfin, j'aime bien le vintage, mais tu vois, c'est pas trop, c'est pas là où je préfère. Donc, et le fait de voir comment le vêtement peut être une aide face à des conditions compliquées, voire extrêmes, c'est quelque chose qui me fascine, où ça a vraiment pris de l'ampleur pendant le Covid. Donc, c'était peut-être ma manière à moi de répondre à cette angoisse antérieure, c'était de me dire, bon, mais comment le vêtement peut être source de résilience? Et plus j'ai cherché de l'info, et plus je me suis aperçu que je ne connaissais rien. Et plus je me suis aperçu que je ne connaissais rien, mais plus j'avais envie de creuser. Donc ouais, c'est vrai que j'aime bien ce vêtement côté geek, le côté où tout s'agence bien, où tout forme un tout cohérent. Et effectivement, ensuite, je suis tombé sur le PCU, donc qui est le système de vêtements des militaires américains. L'un des systèmes, en tout cas, où j'ai fait une vidéo dessus. Et j'ai trop, trop kiffé, quoi. Donc j'ai eu envie de faire. Après, j'ai fait la vidéo sur les vêtements qui tiennent chaud, enfin, qui retiennent la chaleur du corps, parce qu'un vêtement lui-même n'apporte pas de chaleur.
Oui.
Et là, j'ai fait une vidéo sur l'imperméabilité aussi, qui est sortie il y a il y a 2 semaines, c'était cette envie vraiment de en quoi l'événement peut permettre d'être résilient, de faire face à certains événements. C'est cette dimension-là qui me fascinait beaucoup et le côté. Moi, tu sais, j'ai une vision du vêtement où le vêtement, ça va vraiment te permettre de kiffer le moment présent, d'aimer le moment présent. Quand tu es au restaurant avec des gens que tu aimes bien, mais tu vois, quand tu as une belle chemise, pour moi, ça fait autant partie qu'une bonne bouteille de vin. Je mets ça sur le même plan parce que tu profites de ce moment-là avec un beau tissu, etc. Et en parallèle, pour moi, je pense que quand tu es dans une situation où tu es challengé en outdoor, par exemple, pour moi, le vêtement doit te donner, comment dire, doit contribuer à ton moral. C'est-à-dire, s'il pleut, tu ne dois pas te dire putain, fais chier, j'ai envie de rentrer. Ça doit te dire, tu dois te dire, c'est pas grave, je continue, je me sens capable de faire tel sommet, telle randonnée, parce que je sais que quoi qu'il arrive, je serai bien équipé. Tu vois, il y a cette dimension psychologique du vêtement qui joue beaucoup sur le moral, qui m'a beaucoup intéressé. Et du coup, je me suis demandé, mais comment est-ce qu'un vêtement peut influencer positivement ou même négativement, d'ailleurs, sur le moral de quelqu'un, et c'est comme ça que j'ai ouvert la boîte de Pandore. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas un randonneur très intensif. J'aime bien, mais même à petite échelle, j'ai observé des cas autour de moi où le choix d'un mauvais vêtement, mais ça peut avoir des conséquences qui sont parfois très, très pénibles, voire dangereuses. Et il y a une
Oui.
partie de moi aussi qui veut pas que ça arrive aux personnes qui m'écoutent sur ces sujets-là. Donc j'ai envie de. Il y a une optique, pas de sécurité, mais quasiment, tu vois. Et en disant, voilà, je vous donne certaines clés pour ces moments dehors, hors de chez vous, pour vous puissiez les vivre sereinement, quoi. Voilà, pour pas que si jamais vous avez un souci, et le vêtement, ça ne sera pas un frein supplémentaire, au contraire, ça va vous aider à faire face.
Ouais.
Il y avait Bonne gueule, c'est l'événement, comment kiffer le moment dans une ville ou dans un contexte urbain, on va dire. Et là, je vous donne des clés, comment avoir des aventures outdoor un peu kiffantes, et voilà, vous avez quelques clés, vous savez comment le système fonctionne. Et si vous voulez encore creuser plus loin, voilà, voici telle ressource, il y a le forum de David qui est très bien, etc., etc.
Moi, j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup l'idée de pouvoir être tout terrain vraiment et donc d'avoir un vêtement qui ait de la gueule en urbain,
Oui.
qui soit classe et qui soit bien coupé et qui tombe bien et qui présente bien et qui puisse aussi faire le boulot s'il se met à pleuvoir, s'il se met à faire mauvais, si je dois partir, si j'ai envie de partir en rando avec le même jean ou avec la même veste ou la même chemise, je peux, tu vois.
Oui.
Et c'est vraiment quelque chose que je retrouve, en tout cas dans ton approche du vêtement pour certains vêtements, évidemment pas tous, mais j'ai eu la mauvaise idée d'aller randonner dans les ronces avec un pull en cachemire une fois et ça m'a vite fait comprendre les limites du cachemire. Mais tu vois,
Même moi, je n'ai jamais fait randonnée en Cachemire.
mais c'est trop top le cachemire pour la rando, hein. Franchement, faut juste éviter les trucs trop abrasifs, mais c'est vraiment. Pour moi, le cachemire, c'est une fibre qui est magique. C'est léger, c'est doux, c'est hyper respirant. Ça tient enfin, vachement bien sa coupe et sa forme, même si on le mouille.
Ouais.
Enfin, il n'y a rien de mieux, franchement.
Ouais, ça m'a beaucoup surpris qu'effectivement tu dises aimer le ventil et le cachemire, parce que effectivement, le cachemire, pour moi, c'est plus une fibre où il faut faire qui n'est pas très rustique, entre guillemets, tu vois. Donc j'étais très surpris de voir que elle avait dans ton monde, dans ta manière d'apprendre l'événement, le cachemire a un rôle.
Écoute, en fait, j'ai acheté un pull en cachemire au Népal quand je suis allé la dernière fois en 2016-2015.
Ouais.
Et ce pull, là, il est plein de trous, mais je le porte encore parce qu'il est parfait, vraiment. Et ça a été une révélation pour moi d'avoir un truc aussi léger et aussi compact qui ait un rapport poids-volume et
Ouais.
isolation aussi élevé et qui tienne autant la route en termes de longévité, même si l'abrasion et les ronces, c'est pas tout à fait ça, mais si on fait attention, en sous-couche, ça passe très bien, en fait.
T'avais pas la petite veste en polycoton par-dessus pour protéger
Et
le petit pull?
si, mais à un moment donné, je l'ai enlevé le soir au campement et je suis allé chercher du bois dans la nuit et je me suis accroché dans des ronces et ça a commencé à
Ah.
faire des trous.
C'était un pull sans marque, j'imagine, où il y avait
C'était un pull, ouais. Himalayan Imports, je sais pas quoi, que j'ai acheté là-bas, tu Je n'ai pas payé aussi cher qu'ici, mais c'était vraiment de la top qualité de cachemire. Et
Ok.
donc, il faudrait que je retourne au Népal pour en acheter un nouveau maintenant. Si tu devais traverser aujourd'hui un continent, tu vois, un peu comme les réfugiés ukrainiens, là,
Ouais.
et que tu avais le choix des vêtements pour la saison aujourd'hui, tu prendrais quoi?
J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à cette question.
Ouais.
Parce qu'effectivement, c'est une. On a quelques fournisseurs en Ukraine, donc ça m'a beaucoup. Ça m'a beaucoup, effectivement, touché. Et effectivement, j'ai vu beaucoup de photos de réfugiés. Et ce que j'ai vu, ça m'a vraiment attristé parce que. En plus de la situation qui est terrible, effectivement, certains n'ont pas de sac à dos, ils portent des sacs à la main, ils sont en coton. Enfin, vraiment, c'est terrible parce que en plus de la situation traumatisante qu'ils vivent de quitter leur pays, de fuir la guerre, ils le vivent avec des vêtements qui ne sont pas du tout adaptés. Donc, j'ai trouvé ça m'a vraiment beaucoup attristé. Alors, la première chose, effectivement, pour moi, ce serait zéro, zéro coton. Parce qu'alors là, tu peux pas te. Enfin, si t'as, tu peux pas te permettre d'attendre 5 heures dans le froid face à un poste de frontière avec des vêtements coton mouillés, quoi. Donc, pour moi, ça serait zéro, zéro coton. Il y a un autre point aussi sur lequel j'aimerais revenir un peu plus tard avec toi, c'est pas de vêtements militaires du tout. Même ceux qui. Parce qu'alors là, je pense que. Avoir des vêtements qui ont ne serait-ce quelques codes militaires dans une situation où tu es en exil, mais ça doit être la pire idée possible. Ça serait, de manière générale, ça serait un peu le système que tu préconises. Mais ouais, je pense que. Alors, au niveau du pantalon de randonnée forcément stretch, qui sèche vite. Moi, j'ai un Tilac, c'est une marque que j'aime bien, qui est noire, qui est assez sobre. Pas de protection aux genoux, par exemple, qui est assez sobre, avec un collant icebreaker à 200 en dessous. Voilà. Au-dessus, je mettrais. Au-dessus, je pense que je mettrais un t-shirt à manches longues en laine mérinos à climat à 230, avec du synthétique en plus, donc pour la chaleur et qui sèche à peu près vite. Et je pense qu'avec moi, j'emporterai un petit t-shirt à manches longues en mèche, le Aclima, l'équivalent du Brigne. Par-dessus, je pense que je ne prendrai pas une veste à isolation synthétique, mais je pense que je prendrai une polaire pour le côté beaucoup plus rustique, on va dire. C'est vrai que ça sèche très vite. Si on doit marcher dans des ronces et tout, ça ne craint rien. Enfin, c'est pas comme les nylons très fins de certaines doudounes qui sont très vulnérables. Par-dessus, je mettrai. J'ai une veste de chez Iltrek en ventil et avec la doublure de chez Paramo.
Ah ouais.
Ouais, c'est une. Ils ont ça où en fait, et même au niveau des épaules, tu as une double couche de ventil. Donc, ouais, effectivement, je dois parler un peu chinois, mais la doublure de Paramo, c'est une. Pour faire très simple, c'est une doublure qui gère très bien la transpiration sous forme de vapeur et sous forme liquide, donc qui sèche très très vite. Et le ventile, c'est un tissu en coton. Là aussi, je vais vraiment grossir, enfin être tout résumé. C'est un vêtement en coton qui est très serré, tellement serré que quand il est mouillé, il ne laisse pas l'eau passer. Et l'intérêt, c'est que si on fait un feu pour se réchauffer et qu'on est fatigué, qu'on s'endort, si jamais il y a une petite brise qui tombe sur le ventile, ça fait chier, mais c'est moins pire que si c'est du nylon.
Ouais, ça va faire un petit trou de boulette quand même, mais ça
Voilà.
va pas prendre feu et fondre et te coller à la peau, quoi.
Voilà. Ensuite, deux ou trois tours de cou de chez Boeuf, un bonnet, en sac à dos. Je prendrai un 50 litres. Je ne sais pas encore pour le coup. Je ne sais pas encore ce que je prendrai en sac à dos parce que il faut pas de passant molle. Tu vois, tu peux pas là. Un passant molle, c'est un. Oui. Pour ceux qui nous écoutent, c'est le système d'attache militaire qui est très reconnaissable. Et donc, ouais, là, tu peux pas. Donc, je ne sais pas encore ce que je prends en sac à dos. Et au pied, j'hésite parce que soit je pars sur le côté de la grosse chaussure de cuir très costaud, genre des Red Wings, une marque que tu vas connaître, j'imagine, très américaine, Trevor Boot, ou alors je suis dans l'école des ultra light, on va dire, une chaussure très aérée qui prend l'eau à la moindre occasion, mais aussi qui sèche très très vite. Donc là, j'hésite un petit peu entre les deux. Donc, ouais, peut-être dans le sac à dos, une couche pour l'eau supplémentaire s'il fait vraiment très froid. Et le vrai problème pour moi, c'est vraiment sur du statique, c'est là où ça doit être le plus agréable parce que j'ai vu qu'apparemment certains réfugiés attendent des heures et des heures dehors dans le froid. Quand tu peux pas bouger, quand tu es sur un sol glacé, là, pour moi, c'est vraiment le plus dur. Donc, il faut des gants, il faut une couche supplémentaire. Et le tout, il faut que ça soit assez léger parce que j'ai eu l'histoire d'un. Je crois que c'était un journaliste qui a marché, qui a fait 83 bornes en 16 heures. Tu vois?
Ah ouais.
Ouais, pour gagner la frontière. Il a raconté tout son périple sur Twitter. Et là, bah, tu ne peux pas te permettre d'avoir un sac de 25 ou 30 kilos. Donc,
En fait, les jupes.
ouais, il faut être un petit peu léger. Donc, c'est vraiment. Voilà, c'est vraiment un équilibre assez fin à trouver. Donc, voilà comment je m'habillerais. Donc, effectivement, d'un point de vue style, ça ressemblerait à rien, mais c'est tant mieux parce que ça doit ressembler à rien, littéralement. Ça doit pas être un style qui se remarque, et surtout pas avec des codes militaires.
Ouais, c'est clair. J'appelle des gens qui se déguisent en militaire ou en low profile avec des gros guillemets, mais qui ressemblent à tout sauf à un civil lambda. Je les appelle les first to die, tu vois. C'est tellement typique qu'on les repère à des kilomètres et c'est vraiment ça attire l'attention énormément. Et dans une zone de conflit, franchement, c'est pas du tout la bonne idée, quoi.
Et alors, toi, tu prendrais quoi comme tenue justement avec en citant les marques et tout, hein? Attention.
Écoute, assez proche de toi. Moi, je suis un peu un bûcheron canadien et du coup, je crains moins le coton mouillé que la plupart des gens, je pense.
Ouais.
Mais je serais assez fanat de prendre un jean avec potentiellement un jean qui est de l'élastane, tu vois, qui
Ouais.
puisse être un peu stretch. Parce que c'est vachement solide et ça résiste vachement à l'abrasion, etc. Et il y a moyen de, enfin, selon les contextes, on va se retrouver. S'il faut passer à travers les ronces ou des choses comme ça, très vite, un pantalon trop fin et
Ouais.
trop typé rando va assez vite se déchirer. Aussi, c'est un look plus civil, tu vois, un jean tout bête, ça permet d'être très vite identifié comme un non-combattant. Et ça me plaît aussi. Et
Ah
avec
ouais.
un. Et avec un sous-vêtement, avec un sous-vêtement synthétique dessous,
Allez, attends,
ça.
il faut les marques. Le jean, c'est tu prends le Varus Telecas du coup?
Alors, j'ai un Varus Telecas stretch
Ouais.
qui est trop, qui est vachement chaud et pas très adapté à ma morphologie. Malheureusement, le seul que j'ai trouvé pour le moment, et j'espère trouver autre chose, c'est le jean Helicon.
Ah ouais.
Qui est un peu fin, tu vois, mais très très élastique et qui
Ouais.
sèche assez vite.
Ok.
Et celui-là, il est pratique, mais un peu trop léger à mon goût, tu vois. Donc j'aimerais un compromis un peu entre les deux, qui soit un
Tu
peu
connais
plus.
la marque Cactus néo-zélandaise?
Non.
Ok, il faut que je t'envoie le lien.
Je prends des notes, moi, tu vois.
Ah ouais, ils font des sacs à dos aussi, tu sais, ça sera un peu le Helicon, non, ça, parce que c'est pas tactique. Ça serait un peu le Filson néo-zélandais.
Ok, ouais, super.
Parce que tu vois, tu connais la marque Swarzy là qui fait les espèces de. Voilà, c'est un peu ce style-là.
Ah, génial.
Voilà, ils ont un jean. Ok, donc un jean Helicon.
Ouais, ou tu vois, Helicon, il est un peu léger, mais. Ou même, tu sais, tout bêtement, j'ai un jean Varus Telecas en selvedge, bien costaud, bien vénère. Je pourrais aussi prendre ça, tu vois, parce qu'il est un peu baggy, justement.
Ouais.
Et même un peu mouillé, ça gêne pas trop les mouvements. Donc ça pourrait être celui-là que je choisis. En prenant soin évidemment d'avoir une sous-couche type haut de l'eau, tu vois, en synthétique,
OK.
que j'aime beaucoup. Parce que haut de l'eau, ils font, tu sais, ils ajoutent des ions d'argent dans leur
Ouais.
fibre, ce qui fait que ça sent pas mauvais et tu peux tracer pendant des jours sans
Ouais.
sentir le fennec garou, tu vois. Et voilà, et en haut, ben, sous-couche mérinos, évidemment.
De chez qui?
Écoute, j'ai pas de préférence majeure, tu vois. J'ai testé un peu Icebreaker, j'ai testé Odlo aussi, qui font maintenant
Ouais.
un peu de la laine. J'ai testé, évidemment, comment il s'appelle, Woolpower. Et ils sont tous fragiles, tu vois. J'en ai pas encore trouvé un qui soit vraiment costaud une fois mouillé. Donc, je n'aurais pas forcément de préférence. Par contre, par-dessus, ben, comme toi, une polaire pour le côté très solide et hydrophobe qui permet de sécher très vite quand on ne porte pas de couche à l'extérieur.
Et la polaire, du coup, tu es chez qui?
Eh ben, moi, j'aime bien Eli Hansen parce qu'elles sont déjà c'est du Polartec
Ouais.
et c'est probablement une des seules coupes qui me convient vraiment si au-delà enfin si je reste en dehors du vêtement militaire parce que ce que j'ai trouvé de mieux pour moi c'est les polaires de l'armée américaine tu vois
Ah, ouais.
qui sont coupés on dirait sur mesure pour moi enfin en gros tous les vêtements de la militaire ou les vêtements ricains
Ouais.
sont adaptés à ma morphologie parce que je mange autant de bœuf que je
Ouais,
pense.
j'ai cette polaire américaine là qui est un peu en high loft, en polar tech un petit peu poilu.
Ouais, à poil un peu long.
Elle est top, elle est top.
Elle est topissime.
Ouais.
Malheureusement, elle a un look militaire, hein,
Ah
très
oui,
typique. Mais c'est
avec
tout de même.
les deux patchs velcro.
Oui, ça ne trompe pas. Et puis la couleur gris, vert de gris, là,
Ouais, que
c'est
j'aime
maintenant.
beaucoup. Elle est très
Ouais.
belle cette couleur, mais effectivement, c'est très typé militaire. Mais c'est une polaire qui coûte, moi je l'ai achetée à New York, elle coûte 80 $, c'est que dalle.
Bah ouais, j'en ai une autre trouvée sur eBay à 40 $, tu vois.
Ouais, c'est OK.
Donc c'est
Donc...
imbattable. Mais il manque une capuche, selon moi,
Ouais.
parce qu'avec un capuchon, on garde énormément de chaleur.
Mmh.
Donc, une Eli Hansen en Polartec 200, tu vois, ou même un peu plus, selon la température qu'il fait, avec la capuche,
Ouais.
full zip, deux poches, trois poches, quatre poches, peu importe. Et par-dessus, j'hésite énormément, mais une veste type Fjällräven, tu vois,
Alors, j'ai 10.
En G10, en
J'ai
1000,
1000, ouais.
que je traite moi avec du Nicwax,
Ouais, le bon
ça
vieux
donne
Nicwax.
le bon vieux Nicwax, ça fait quand même le boulot pour être bien déperlant, ça respire encore vachement bien et avec une polaire dessous, tu peux prendre pas mal de flotte tant que tu chauffes à l'intérieur, ça conduit de faire le boulot. Et ils ont des coupes qui sont très pratiques, très confortables et pas du tout typées militaires aussi.
Ouais.
Avec pas de poches, tu vois, qui sont assez slick et assez avec des couleurs à la fois neutres, mais pas militaires. Tu vois, dans des marrons, des gris ou des choses comme ça, ce qui permet au final, de pouvoir se planquer si on veut se planquer et de pouvoir de loin être identifié comme un civil, tu vois.
Il faut vraiment que tu regardes ce que fait Hiltrek parce qu'ils ont un service de sur-mesure, donc ils peuvent adapter les coupes à toi.
C'est vrai?
Ouais. Et qui est le sur-mesure n'est pas très cher. Le surplus, il est vraiment. J'ai plus les prix en tête, mais ils déconnent pas sur les prix. Et
Yes.
c'est eux qui font le double ventile avec la doublure de chez Paramount.
Mais ça m'intéresse grave hein,
Et puis
parce
alors là,
que
au
je
niveau du
fais.
fit, tu vas kiffer. Hein. Le fit, c'est un bon fit bien old school. Bien à
Génial.
l'ancienne. Moi, je l'avais pour le stage de survie, du coup,
Ouais.
que j'ai fait ce week-end.
Ouais.
Elle est top. C'est vraiment un super produit. Avec des bons zips en plastique YKK, bien, voilà, bien fiable. Pas de
Top.
chichi au niveau des cordons. Ça reste rustique. Ça se répare facilement. Tu vas kiffer.
Bah écoute, je vais aller voir ça. Dès qu'on voit le croche, je vais aller faire mon shopping, tu
Je vais t'envoyer le lien. Ouais.
Carrément. Ouais, et puis en sac à dos, je prends un sac de montagne, tu vois, tube, tout simple.
Ouais,
J'aime beaucoup.
vas-y.
J'aime beaucoup une marque anglaise qui s'appelle Aiguille Alpine, qui font des vieux sacs à dos un peu comme dans les années 80, tu vois, en gros coton,
Ouais, en
En gros,
canevas et tout.
Cordura, tout
Ouais.
simple, avec des grosses boucles et des gros zips et au pas de chichi, tu vois. Et ils sont très, très bien foutus, très solides, avec peu de pièces mobiles et peu de gadgets. Et j'aime beaucoup parce que ça te fait un sac qui, au final, est indestructible et qui est vachement léger et qui est typé montagne, qui n'a pas l'air du tout d'un sac militaire, quoi.
Et quel litrage, du coup, tu partirais?
Bah, mon go bag, moi, tient exactement dans 45 litres. Donc,
Ok.
je partirai sur un 50 pour avoir un peu de marge, pour pouvoir ranger vite s'il y a besoin et rajouter tu vois, une bouteille de flotte, un peu un sac de chips et trois conneries. Mais
Ok.
ouais, et c'est. Je pense que ce combo-là serait grave utile et utilisable. Et en chaussures, pour le coup, j'ai la réponse, enfin, pour moi en tout cas. Je prendrais clairement des baskets. Et non pas des grosses godasses, parce que le poids au pied, quand on veut faire de la distance, ça fait une énorme différence. Et marcher sur le bitume avec des pompes, Dans
Ah oui.
rando, tu vois, sans amorti, ça devient assez traumatisant. Après, déjà après 20-30 bornes, tu sens passer. Et donc, des baskets un peu type trail ou tout terrain, ou rando, tu vois.
Ouais, genre des petites Salomon, des speed cross.
Voilà, ce genre de truc, avec un léger amorti, tu vois, mais pas trop non plus.
Ok,
Qui
ouais, bah
fait
c'est.
isolation aussi, en fait, par contact, parce que la semelle en mousse, elle est très isolante par le dessous. Avec des bonnes chaussettes, nous au Québec, on n'avait pas de. Enfin, en tout cas, à partir de 12-13 ans, quand on commençait à vouloir être un peu fier et un peu à se la péter pour les copains, on n'avait jamais de pompe d'hiver. On n'avait que des
Ah.
baskets, genre typiquement des Nike, tu vois, avec la grosse semelle en mousse et des chaussettes dedans, et on faisait tout avec ça.
Ah ouais, ok. Donc, de la chaussure de trail très respirante,
Voilà.
avec un super amorti. Ouais,
Carrément.
des Salomon, en fait, hein. Enfin, il y
Ouais.
a.
Des Salomon ou peu importe. Hein, j'ai une paire de pompes de trail Mendel
Ouais, ok.
qui sont Gore-Tex, ce que j'aime pas trop. Je préfère plus respirant que Gore-Tex, mais ils avaient pas ma taille sans Gore-Tex. Mais bref. Et donc, qui sont assez larges, assez souples, mais pas trop, avec une bonne accroche, une semelle qui est assez
Ok.
épaisse, mais pas trop. Enfin, pour moi, c'est un bon compromis, tu vois, de maintien.
Et au niveau des gants.
Ben, j'en ai jamais trop mis, en fait. Hein, tu sais, j'ai grandi au Québec sans rien sur les mains, sauf des moufles s'il faisait moi, vraiment très froid. Et j'aime bien avoir des manches un peu longues pour pouvoir mettre mes paluches dedans s'il fait froid, tu vois.
Ok.
Et voilà. Potentiellement une paire de gants en cuir, tu vois, pour protéger mes mains mécaniquement, mais j'ai pas trop froid aux mains en général. Donc
Ok. Ok.
voilà.
Ah ben c'est rare où tu t'exprimes autant, tu donnes autant toutes les marques d'événements. C'est.
J'ai pas. Enfin. Je suis pas très au fait des marques en vrai, tu
Ouais.
vois. J'ai quelques trucs que j'ai testés, que j'ai essayés, que j'aime bien, mais je suis très peu, au courant des dernières tendances et des derniers trucs, tu vois. Je suis un peu, je dirais pas paresseux intellectuellement, mais pas loin, tu vois. Quand j'ai trouvé un truc qui convient, j'arrête de le chercher un peu.
Oui, et l'autre côté, tu as quand même fait un beau dossier sur un système de vêtements à 5 couches. Tu connais des marques assez pointues. Enfin, le travail est largement fait, on va dire.
Ouais, le travail est fait, mais il y a la mise à jour qui se fait pas aussi vite qu'il faudrait peut-être. Mais bon, je pense que aussi j'ai une espèce de malin plaisir à faire plus avec moins aussi, tu vois. Quand je me
Ouais.
retrouve en stage, je fais exprès d'avoir mon vieux sac à dos pourri, mon couteau pourri, mon jean pourri, mon tu vois tout du matos vraiment pas très bien, tu vois.
Ouais, pour montrer que c'est pas en fait c'est pas c'est ce qui compte le plus, c'est l'attitude, les compétences, la connaissance,
Ouais,
plutôt
exactement.
que le matériel. Moi, je te pose des questions parce que je suis passionné par ça, mais effectivement, pour les gens qui sont moins passionnés que moi, c'est pas le plus important, la marque, etc.
Ouais, je pense que y a plein de gens qui s'intéressent et qui n'ont pas envie d'acheter de la merde, tu vois.
Ouais.
Et comme disait mon grand-père, on est trop pauvre pour acheter de la merde. D'ailleurs, la preuve, il a économisé pour s'acheter une veste Wilson qui probablement est encore portée aujourd'hui. Et j'ai tendance à trouver que ça vaut le coup d'investir en fait dans ce genre de truc pour avoir le bon vêtement tout de suite plutôt que de toute façon en acheter un, voir que ça va pas, en acheter un deuxième, voir que ça va pas, et ainsi de suite pour finalement mettre les sous et acheter le bon dans un troisième ou quatrième temps, tu vois. Donc
Surtout que vous avez vraiment des gros enjeux de rusticité, de polyvalence. Enfin, c'est le PERL, hein, c'est l'acronyme PERL. Donc,
ouais, bien sûr.
vous êtes dans les stages, vous êtes souvent à genoux, par terre, on passe un petit peu dans les ronces. Enfin, vous ne pouvez pas du tout vous permettre d'avoir le pantalon Arc'teryx tout léger, tout fin.
Non.
Il serait détruit en 2 ou 3 stages.
Ouais, et au prix que ça coûte, franchement, ce serait quand même dommage. Et c'est toujours une question de compromis, tu vois. C'est toujours une question de où est-ce que tu places le curseur entre la légèreté, la mobilité et la protection et la robustesse. C'est toujours. Et il faut. C'est un cahier des charges qu'il faut adapter en permanence aussi en fonction de la saison, en fonction du terrain, en fonction de plein de trucs.
Ouais, et puis moi, tu sais, j'ai aussi un côté Au-delà de ça, un côté plaisir, humeur. Genre, des fois, je me dis, si je fais telle randonnée avec tel copain, mais dans quel vêtement j'ai envie d'en profiter de cette randonnée, tu vois? Avec quelle couleur, tu vois? Moi, il y a aussi ce côté-là. Bon, sachant que les conditions seront normalement pas trop extrêmes, est-ce que j'ai envie d'avoir un pantalon un petit peu plus ajusté que d'habitude pour cette fois-ci? Est-ce qu'au contraire, j'ai envie d'avoir un peu plus d'aisance? Est-ce que j'ai. Enfin, tu vois, moi, il y a un côté un peu plaisir qui est, je pense, qui peut être à l'opposé de certaines personnes de ta communauté.
C'est pas impossible, mais en fait, ma femme elle se fout de ma gueule sans arrêt quand j'ai des potes moniteurs ou des gens qui sont un peu du même milieu que moi à la maison, parce qu'on fait que de parler chiffon. Tu vois, on parle des textiles, on parle des couches de vêtements, on montre, hey, regarde le pantalon, le jean, le machin, le sac. Et on a le même genre de discussion que j'ai aujourd'hui avec toi. Mais puis, il n'y a pas de mais, en fait. C'est strictement la même chose. Et on est passionné de ça pour ces raisons-là, mais pas forcément pour un aspect plaisir, mais pour un aspect plus fonctionnel. Mais en vrai, si on est honnête, on connaît par cœur toutes les petites déclinaisons de vert kaki qui existent, tu vois, du RL 7013 au 73, au olive drab, au
Ça,
machin, au
c'est
truc,
cool.
tu vois, et on a le coyote et le truc et le tan et le beige, et tu vois,
Ah, il y a
et
une petite passion quand même, hein. Il y a une vraie
on...
passion
Complètement, complètement, tu vois, on assume, on fait style,
qui.
on fait style d'être des gros machos, mais on est des esthètes du vert kaki, tu vois.
Ouais, sur le côté. Non, c'est que fonctionnel en fait. Non, il y a un côté en fait, il y a une vraie petite passion, il y a presque une petite coquetterie, je sens,
Mais complètement,
dans tes.
complètement. Et c'est, tu vois, c'est comme les gens qui font des bracelets en paracord et plein de trucs de tressage, de machin, de manches de couteau et de poignées de sac à dos.
Oui.
Mais en fait, c'est du macramé, hein. On va pas se mentir, tu vois.
Mais c'est vrai que oui, vous par contre, ça transparaît plus sur les couteaux. Et effectivement, aujourd'hui, acheter un couteau qui fait vraiment le taf pour pas cher, voilà, il y a ce que fait Mora. Mais c'est vrai que, voilà, par contre, mais je comprends qu'il y a des gens qui ont envie, même pour faire d'avoir des couteaux beaucoup plus beaux, avec le côté un peu artisanal, le côté plus exclusif,
Ben oui.
avec l'acier qui va bien. Et je crois que d'ailleurs, vous travaillez sur un couteau, vous, en ce moment.
Ouais, on travaille sur un couteau avec un coutelier français qui s'appelle Jérémy Émile. Non, j'ai le prototype en test là et c'est vraiment de la balle. Et donc, il a bossé avec pas mal d'unités, tu vois, de gendarmerie, de l'armée, etc. Il y a quelque chose en plus, effectivement, dans le fait d'avoir un coutelier qui va choisir en fonction d'une utilisation précise, un acier précis, une épaisseur de lame précise, une géométrie de manche, de machin, de lame, des moutures, etc., qui soit parfaitement adapté à ce qu'on veut faire.
Oui, et puis une couleur aussi,
Oui.
une nuance dans la couleur du manche,
Ah
etc.
ouais. Et tu vois, la lame bronzée, qui fait pas trop de reflets, machin, tout ça, c'est... Ça part d'un truc fonctionnel, mais en vrai, ça glisse très très vite vers un aspect esthétique.
Et je
Et
pense,
les deux.
et c'est tant mieux, moi je pense. En vrai, je
Ouais.
pense que c'est vraiment tant mieux parce que avoir du matériel qui fonctionne bien, c'est une chose, mais avoir du matériel que tu prends plaisir à regarder, c'est très bien aussi, tu vois.
Ouais, puis il y a un aspect esthétique, kinesthésique aussi, tu vois, d'avoir le
Exactement.
couteau qui tient bien dans ta main et que tu peux utiliser, qui est agréable à utiliser. C'est vraiment cool, vraiment, vraiment, tu vois, c'est très satisfaisant pour moi d'avoir ce couteau-là, notamment en main, et de l'utiliser en stage ou pour bricoler ou n'importe quoi, et qui est à la fois beau, très fonctionnel, qui coupe très bien, qui est solide, que je sais que je peux compter dessus, et qui est agréable à tenir en main, qui ne va pas me faire mal, que j'ai un sentiment de quasiment d'adhérence dans la main, tu vois, c'est... Je trouve
Oui,
ça très satisfaisant.
puis il y a aussi une satisfaction, c'est quand même toi qui as participé à l'élaboration de ce couteau, tu vois, à créer un objet.
Ouais, aussi, ouais.
Et puis à travailler avec une petite structure, un mec dont c'est vraiment le métier, très pointu et tout, en fait, c'est comme pour le vêtement, hein, pour le coup, hein, je comprends très bien.
Pareil, et de perpétuer ce savoir-faire, tu vois. De laisser la chance et d'ouvrir un petit marché à un mec qui fait ça avec le cœur, je trouve ça cool.
T'as
Et
combien de
qui.
couteaux, toi, du coup?
Pardon?
T'as combien de couteaux en tout?
Je sais pas, j'en ai une cagette pleine, tu vois.
Ok.
J'en ai une cagette pleine de plein de couteliers différents. J'ai pas mal de moras aussi que j'utilise un peu partout. J'ai 3-4 opinels qui traînent, tu vois. J'utilise quasiment tout le temps les mêmes couteaux, tu vois. Et j'en ai plein que j'ai parce que je les aime bien, je les trouve beaux, c'est un cadeau, c'est machin.
Ah ouais.
Mais voilà, et si tu voyais ma garde-robe, tu rigolerais parce que j'ai pareil. Là, j'ai dû faire de la place parce que ma fille est revenue habiter à la maison et j'ai 2 mètres cubes de fringues que je mettais pas souvent, que j'ai stocké dans la bergerie derrière la maison, tu vois, dans des sacs poubelles fermés. Et j'ai énormément de fringues, énormément. Que j'ai
Ah.
acheté, testé, tu vois, mis une fois, deux fois, finalement, ouais, ça va pas parce que c'est trop serré dans le dos, ou ouais, ça va pas parce que c'est, tu vois, et que je mettais peu, et
Un
j'ai
petit peu
gardé.
de... Ok, c'est intéressant, effectivement.
Et les sacs à dos, pareil, les sacs à dos, j'en ai des caisses, quoi.
Ok, il y en a qui collectionnent les chaussures, les chemises, toi, c'est les sacs à dos, les...
Sacs à dos, couteaux,
Ouais.
vêtements, et des pompes, j'en ai pas mal aussi.
Ouais, ok, ah, c'est intéressant.
Ouais. J'ose la question de merde, mais le fond ou la forme?
C'est pas ou, c'est et, tu vois, c'est le côté
Ouais.
non-duel que tu dois connaître,
Ben oui.
parce que l'un ne peut pas aller avec l'autre. Et moi, tout mon travail, entre guillemets, pour certains hommes, c'est de leur... Certains hommes sont presque méfiants de la forme, tu vois. Le côté de savoir le... Surtout, en plus, je pense, dans ton milieu, je pense que le fait que l'événement soit beau, certains hommes, c'est s'il est beau, ça veut dire qu'ils ont fait des concessions sur la fonctionnalité.
Ouais.
Ou ça, c'est un truc marketing. Ah, méfiance, méfiance, méfiance.
Non mais c'est clair. Moi, je suis jamais rentré dans une boutique de fringues pour hommes de ma vie.
Ah, ouais, c'est jamais.
Jamais.
Ok.
Et j'irai chez toi, tu vois. J'irai chez toi pour cette raison-là.
Ben, je te ferai une petite visite avec grand plaisir.
Mais grave, j'irai chez toi parce que je vois et j'observe et dans ton discours, c'est clair qu'il n'y a pas de compromis sur la fonctionnalité. Au contraire. La forme, à mon avis, sert de support et de prolongement à la fonctionnalité.
Ouais, et puis c'est, enfin, tu vois, on a travaillé le yak comme matière. Si tu aimes le cachemire, tu vas aimer le yak, hein. Et franchement, c'est quand tu as une belle matière un peu exclusive, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment cool. Donc oui, c'est le fond et la forme. Sinon, ça, le vêtement ne peut pas fonctionner.
On est d'accord.
Et voilà. Et n'ayez pas peur de la forme. Si l'événement est beau, ce n'est pas grave. Il ne faut pas s'en méfier. Si une marque a passé du temps sur le col d'une chemise, la courbure d'une épaule, etc., il ne faut pas s'en méfier. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas mis des efforts ailleurs, bien au contraire.
Ouais, je pense. Et j'ai l'impression que enfin, il y a un concept que j'aime beaucoup qui vient du Japon. C'est, je me souviens plus du terme et j'oserais pas le dire, dire le mot japonais de peur de me ridiculiser. Mais en gros, c'est justement ce concept de la beauté par la fonction. Tu vois, la beauté étant l'expression très raffinée de la perfection de l'atteinte d'une fonction.
Ah ouais. Moi, je connaissais le wabi-sabi, que tu vas connaître aussi, ou la beauté dans l'imperfection, dans la patine.
Ouais,
Mais
aussi, ouais.
je pense que toi, c'est encore un autre que tu décris.
Ouais, c'est un autre.
Ouais.
Mais tu vois, un outil, n'importe quel outil qui est parfaitement adapté à son usage et qui est bien fait
Ouais.
est beau.
Ah oui, alors du côté des Japonais, c'est des malades, hein. C'est vraiment des malades.
Mais c'est clair.
Ah ouais.
C'est clair. Ça me rappelle une discussion qu'on a eue avec ma chérie Aurélie sur la notion de qu'est-ce que la qualité, tu vois?
Ah
Qu'est-ce que la
ouais,
qualité?
ah ben là
Et
on ouvre une boîte.
en fonction des pays, t'as, tu vois, pour les Allemands, la qualité, ça répond parfaitement au cahier des charges.
Ouais.
Pour j'en sais rien, pour les Suisses, parce que ma chérie, les Suisses, la qualité, ça répond au cahier des charges parfaitement. Tu vois, il y a une tape en plus.
Ben c'est l'horlogerie suisse, hein.
Ouais, clairement. Et ils ont vraiment ça dans leur culture de c'est jamais assez bien, tu vois, de
Ouais.
toujours pousser la perfection un peu plus loin. Les Japonais, bah, c'est la perfection dans le respect de la tradition, peut-être un peu plus.
Ouais.
Pour les Nord-Américains comme moi, la qualité, ça fait le boulot, tu vois. C'est fonctionnel, 100% bien étudié et bien fonctionnel et fiable, durable, rapport qualité-prix, etc. Et en France, j'ai l'impression que la qualité, traditionnellement, c'est vachement associé au luxe, en fait, tu
Et
vois.
oui, tout à fait. Ouais.
Et j'aime bien, enfin, je pense que je m'intéresse à ce que tu fais aussi parce qu'il y a le côté luxe, mais il y a le côté fonctionnel en même temps. Et justement, tu vois.
Ouais, et en France, il y a presque le côté. Je vais pas acheter du luxe, je suis au-dessus de ça. Je suis au-dessus de ces basses considérations superficielles, frivoles, etc.
Ouais.
Tu vois, et qu'avec bonne gueule, on essaye de dire, bah non, derrière la qualité, t'as des. Il y a des filateurs, des tisseurs, des fabricants qui se démènent justement sur des histoires d'emmanchures, d'épaules, de fils utilisés. Enfin, c'est ça que moi je trouve formidable et que j'ai envie de transmettre, quoi.
Ouais, puis c'est, enfin, je pense qu'on sous-estime vachement le savoir-faire qu'il y a derrière la création d'un vêtement aussi.
Ah oui, complètement. Ouais. Et le pire, c'est qu'en tant que passionné de vêtements, tu penses que tu sais tout, mais quand tu passes dans le côté de la production. Je pense que ça a dû te faire pareil avec le couteau. Tu t'es dit, j'en utilisais plein, je sais ce que c'est qu'un bon couteau, mais quand tu as mis un pied dans la production, là, tu t'es dit, ah ouais, en fait, c'est pas aussi simple que ça.
Mais c'est clair. Et d'avoir forgé moi-même et fabriqué moi-même des couteaux,
Ouais.
ça m'a permis de me rendre compte que, en fait, il y a une infinité de détails et de paramètres à prendre en compte.
Mais ouais.
Et pour avoir discuté avec Didier et m'être intéressé à comment on fabrique un vêtement, je vois que je suis complètement ignare et incompétent dans tous ces domaines-là. Et c'est un truc qui me fascine parce que j'arrive à reconnaître, quand je le porte, un bon vêtement, mais pouvoir analyser dans le détail comment on le fabrique et accompagner la création d'un vêtement comme ça, je ne saurais pas faire du tout, tu vois.
Ben je te rassure, même pour moi, enfin, j'ai beaucoup d'humilité hein, quand tu fais face à la confection industrielle. Il y a plein de trucs hein, qui sont. La manière dont, ne serait-ce que la manière dont le tissu est stocké, ça peut influencer ensuite la coupe parce que il va plus ou moins se dilater. Donc ensuite, quand il va redevenir dans des conditions normales, le tissu va se contracter, etc. Enfin, c'est plein de trucs comme ça. Donc il faut aller jusque-là, même. En Italie, j'avais visité une usine c'était l'Europiana, où en fait, le sol sur lequel reposaient les machines qui tissaient, qui, non, qui, oui, qui tissaient, c'était du parquet. Et je demandais, mais pourquoi vous mettez du parquet et pas un sol en béton? Ils ont dit, bah, le parquet, c'est bien parce que pour telle histoire de vibration, telle histoire d'humidité, etc., c'est parfait. Donc, c'est pour ça que c'est un vieux parquet qui est nickel pour ça. Et
Ah ouais, ça va loin quand même.
oui, la qualité de l'eau aussi. Dans t'as certaines régions où historiquement, tu avais des tanneurs et des filateurs. Parce qu'il fallait une eau très particulière pour tanner le cuir ou pour. Tu vois, est-ce qu'il est trop calcaire ou pas assez, tu ne vas pas avoir tout à fait les mêmes propriétés.
Et c'est ça
Donc.
au final qui fait que ton vêtement a tissé d'une certaine façon dans un taux d'humidité X avec une vibration Y et tous ces petits détails-là va faire que quand tu couds ton vêtement, après, il reste comme tu veux qu'il soit et il tombe bien parce que ça joue à
Exactement.
quelques millimètres en vrai.
Ah
Non.
oui, effectivement. Et honnêtement, dès que malheureusement, tu as toujours des petites tolérances industrielles,
Oui.
où en fait, si tu veux les supprimer, ça coûte très, 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 très cher. Et effectivement, dès que le vêtement il est à 0,5 mm en moins, parfois tu le sens de suite. Parce que justement, la matière, elle va pas avoir la même élasticité. Justement, parce que suivant comment elle a été stockée et coupée, en fonction du sens, etc., tu peux de suite sentir une petite variation.
Mais c'est clair. Et je pense que, enfin, moi, je suis difficile, tu vois. Si j'ai pas de vêtements classe aujourd'hui, c'est parce que pour que un vêtement me satisfasse vraiment, il faudrait vraiment que je mette le prix, tu vois.
Ouais.
J'ai eu le malheur de goûter au costard sur mesure pendant une petite période de ma vie, j'ai bossé comme garde du corps. Et j'avais les costards sur mesure vraiment classe et le pantalon qui tombe parfaitement et qui est dans lequel tu as l'impression d'être dans un survêt tellement c'est confortable, mais en même temps
Ouais.
ça a de la gueule. Et l'ensemble valait plusieurs mois de mon salaire. Le patron, il voulait que j'aie de la gueule, du coup il me payait ça. Et d'avoir goûté à ça, ça m'a fait, waouh, c'est quand même topissime, tu vois, et j'ai du mal à me satisfaire d'un entre-deux, tu vois ce que je veux dire?
Ah, ben quand on a coûté ce qu'on appelle au bespoke, donc au sur-mesure, effectivement, ouais, il y a des gens mais qui sont vraiment, vraiment accros. Hein. Et moi, je connais des gens, ils n'ont plus rien en prêt-à-porter, mais ils ont tout en sur-mesure. Parce qu'ils veulent la taille de colle qui va bien, le tissu qui va bien. Aujourd'hui, en plus, on a de la chance parce qu'on a une offre très riche et variée pour des gens qui veulent du sur-mesure, pas forcément beaucoup plus cher que le prêt-à-porter. Aujourd'hui, il y a plein, plein de trucs.
Ah ouais?
Ah oui, aujourd'hui, aujourd'hui, tu as des chemises en sur-mesure à moins de 200 euros, ce qui n'était pas du tout le cas avant.
Ouais, c'est vrai. Vous faites des retouches, vous, chez Bonne Gueule?
Oui, on en fait, mais alors, vu que tu me dis que tu as des grosses cuisses, là, je commence à avoir la petite goutte de sueur là, qui. Parce que c'est horrible. Enfin, c'est le plus compliqué à habiller, effectivement, quand tu as des cuisses énormes. Tu as forcément des frottements à l'intérieur.
Ouais, ça va.
Donc, mais oui, on peut faire des petites retouches, mais il faut que tu me donnes ton tour de poitrine et. Ça me donnera une idée un peu de d'où tu te situes chez nous.
Ouais, je suis allé voir sur le site et j'ai pas trouvé grand-chose qui dans lequel je pouvais rentrer, pour
Parce
être honnête.
que tu vas faire un triple XL, toi, j'imagine.
Ouais, enfin, je fais un triple XL aux épaules, mais XL à la taille, tu vois. Et les cuisses sont en 4XL, les mollets en 5XL. Enfin, j'ai une morphologie très, très bizarre. Et en plus,
Bah, des bûcherons québécois, hein.
ouais, un peu,
Solide sur
un
les
peu.
appuis, costaud.
Disons que je risque pas trop de m'envoler s'il y a un coup de vent, c'est clair.
Tu pèses combien
Mais
si c'est pas indiscret?
aujourd'hui, je suis à 115,7.
Pour 1,80 m.
85.
Ah ouais, là il y a un, comment on dit, là, un taille plus PDC qui est assez vénère là.
Ouais, je suis un peu 1 mètre cube. Ouais.
Ouais, t'as presque une morphologie de powerlifter en fait.
Ouais, exact. Mais si je bouffe juste à ma faim tout le temps, je monte à 145 kilos et je soulève des bagnoles, tu
145 kilos.
vois. Ah ouais, là, je suis au régime tout le temps pour rester à 115. Hein, si je mange autant que j'ai faim tout le temps,
Ouais.
juste sans me gaver, hein, juste à ma faim, je sors de table, j'ai plus faim, tu
Ouais.
vois. Je monte à 145 kilos.
Ah ouais, là en prêt-à-porter, on peut plus habiller ça.
Ça n'existe pas, ouais. Ça n'existe
Bah,
pas.
après, tu as des marques exprès pour des gens un peu en surpoids, mais je suis pas sûr que ça va te beaucoup te parler, quoi. Parce que
Mais
c'est.
je m'habillais dans les fringues pour les gros, tu vois,
Ouais.
jusqu'à ce que je fasse un régime un peu drastique et que je redescende à 115, où j'ai une morphologie entre guillemets plus normale.
Mais tu as perdu 30 kilos dans ton régime.
Ouais.
Waouh. En combien de
Même,
temps?
je suis monté à plus de 145, hein, et j'avais pas tellement de bide, tu vois.
Ouais.
J'ai pris énormément de masse musculaire et donc j'ai même dans le prêt-à-porter pour les gros, j'étais pas du tout dans le format classique.
Ben non, parce que toi, tu vois, il faut une poitrine, une cage thoracique vraiment surdéveloppée,
Ouais, puis
une taille
enfin.
un peu ajustée. Enfin, c'est. Ouais, ça doit être. Ouais.
Ouais, non, mais je suis impossible à habiller. Enfin, sauf en mode baggy, tu vois, avec une ficelle à la taille pour tenir le truc. Enfin, bref. C'est vachement frustrant pour moi, tu vois, de devoir me fringuer en prêt-à-porter. Mais
Mais il te faut le
en,
sur-mesure, t'as pas le choix.
euh, pour avoir de la gueule, ouais.
Ok.
Pour avoir de la gueule, ouais. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ah, j'ai mal au dos. Je vais couper au montage.
Pas de souci.
Ah.
C'est le soulevé de terre à 200, 230 kilos qui passe mal.
Ouais, j'ai arrêté le soulevé de terre. Je me suis défoncé le bassin il y a 2 ans, là. Je me suis vrillé le bassin au niveau de la sacro-iliaque et je me suis arraché des ligaments. Du coup, maintenant, j'y vais tranquillement.
Ah ouais.
Mais j'ai été con, tu vois. J'ai fait un soulevé de terre avec un pied 10 cm plus haut que l'autre pour voir ce que ça faisait. Et
Ah
mon
ben
bassin, il a pas.
ça dit que le bassin, du coup.
Voilà, je le sais maintenant et je le dis à tout le monde, tu vois, parce que depuis j'ai mal, j'ai vraiment mal. Mais bon, c'est comme ça.
Ok.
Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu as envie d'aborder
Ouais, moi j'avais une question.
Ouais.
Donc pour ceux qui nous écoutent, j'ai fait le stage de survie N1 de. Et alors moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que dans la liste de matériel que tu demandes, c'est le deuxième ou troisième paragraphe, il y a un mot sur le dress code. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi, comment? Parce que à la limite, on s'en fout parce que c'est le dress code en mode, pas au niveau des propriétés thermiques, etc. C'est le dress code en mode style. C'est-à-dire en gros, tu dis ressembler à des civils. Alors, pourquoi ce paragraphe? Enfin, c'est l'un des premiers trucs de la guerre liste, c'est pour ça que ça m'a vraiment beaucoup étonné. Donc, pourquoi et puis, il y a un paragraphe assez ferme là-dessus. Pourquoi c'est comment dire, ce point-là, en fait?
Pour deux raisons. La première raison, c'est que la survie a très mauvaise presse et on veut vraiment se distinguer dans le sens où on ne veut pas que les photos qu'on pourrait poster sur notre site ou que les gens vont faire circuler après soient plein de mecs en treillis dans la forêt. Tu vois, juste pour l'image qu'on donne, c'est vachement important pour nous. Alors, évidemment, on tolère, tu vois, si quelqu'un, déjà, si on a des militaires qui viennent, qui sont au boulot, ils viennent en treillis, il n'y a pas de souci, tu vois, on va évidemment les accepter comme ils sont parce qu'ils sont au taf. Et la deuxième raison, c'est qu'on veut que si les gens investissent dans des vêtements pour venir au stage, ben, qu'ils investissent dans des vêtements qui soient pas des vêtements de first to die, tu vois. Qui soient civils, qui aient l'air de ce qu'ils sont, et qui soient. S'il y a un problème ou n'importe quoi, ben, ils aient pas un look qui attire les balles, tu vois. Ça, c'est une raison un peu secondaire pour notre contexte aujourd'hui. Ceci dit, il y a plein de gens qui viennent nous voir, qui vont partir à l'étranger, qui vont aller dans des pays potentiellement instables. Qui vont aller dans des pays aussi où il y a une grosse méfiance par rapport aux espions, aux militaires, aux étrangers qui viennent, etc. Et on veut vraiment pas, on veut vraiment donner un premier pli, tu vois, d'acheter le vêtement civil qui va bien, s'il faut acheter quelque chose. Voilà. Et c'est aussi parce que bien souvent, les vêtements militaires que les gens achètent sont des vêtements de surplus. Et qui sont soit en coton ou en toile de coton qui vont faire qu'ils ont froid, ou alors des vieilles parkas Gore-Tex type armée française ou je sais
Des
pas quoi.
bâches, c'est des bâches. Le Gore-Tex de l'armée française, c'est une bâche, le truc.
C'est une bâche de camion et c'est guère plus respirant qu'une bâche. Et c'est très. En plus, c'est pas étanche, tu vois. Il y en a plein qui sont trop usés, où il y a des petits trous dedans, etc. Et donc, ils prennent la flotte. Donc voilà, maintenant, si quelqu'un se pointe chez moi avec une veste Arc'teryx Leaf, je pourrais pas décemment, en tant que Canadien, le jeter, tu
Ah ben oui, parce que c'est fabriqué au Canada, l'IF en plus, enfin
vois.
les vestes en tout cas.
Ouais. Et donc, c'est j'ai une marge de tolérance et de chauvinisme, tu vois. Mais c'est on essaie de sortir de ça pour cette raison-là. Ouais.
Ok, bah écoute, moi j'étais habillé, j'avais un pantalon de chez Paramo avec des renforts au niveau des genoux et des fesses et au niveau des mollets ont été très utiles pour passer les ronces, s'asseoir par terre, pour mettre un genou par terre, il était vraiment bien, très stretch. Et au-dessus j'avais un short à manches longues de chez Trudark, qui est une marque que j'aime bien, un peu branleur mais j'aime bien, avec en dessous le base layer en mèche de laine. Ah oui, d'ailleurs, il faut que j'en parle parce que j'aimerais bien faire un article. Il faut que tu me dises si j'ai le droit de dire tout le matériel que j'avais ou si ça fait partie de
Non,
la
pas de
course.
souci.
Et par-dessus, mais j'avais ma petite veste Hilltrek, voilà, en ventile avec la doublure de chez Paramo. Et j'avais la fameuse polaire de l'armée américaine dans mon sac à dos, qui m'a été très utile d'ailleurs. Et une petite polaire un power stretch de chez Tilac aussi, le matin, qui était vraiment top.
Et
Voilà.
pas de doudoune.
Moi, j'ai eu la chance de savoir que milieu forestier avec qui s'accroche et doudoune, ça ne fait pas bon ménage en général. Donc, ouais, parce que tu vois, j'ai des pièces de chez Leaf en climat shield, mais clairement, ça me trop fragile. Et je suis très content de ne pas l'avoir pris parce que c'est vraiment tu vois, quand il faut prendre le bois, quand tu passes dans des. Dans la forêt, sur les fameux petits chemins en pointillés là, sur la carte, ça accroche tout le temps. Donc non, non, il faut pas de tissu fragile. Même le sac à dos, hein. Le sac à dos, il faut un truc un peu rustique parce que mais tu le mets souvent par terre, tu le portes.
Mais c'est clair.
Donc ouais, il y a pas le choix. Donc Pas de doudoune. Moi, je voulais la petite polaire de l'armée américaine. Elle était juste parfaite. Les sacs de couchage, j'avais le Carantia, le Défense 4. Parce que j'avais été traumatisé de nuit en Mongolie où j'ai pas pu dormir parce que j'avais trop froid. Et je m'étais promis, mais plus jamais de ma vie, je passerai une nuit où je ne peux pas dormir parce que j'ai trop froid.
Ça me rappelle les vieux souvenirs des nuits à grelotter dans ton sac. Le temps est une chose vraiment très relative. Et quand tu es dans ton sac de couchage, que tu grelottes, tu vois, que tu t'essaies de trouver une position où tu as un peu moins froid et tu fais du gainage, tu fais la planche dans ton duvet pour te réchauffer un peu, tu manges une barre de céréales pour mettre des calories dans la bécane. Et tu fais, OK, je vais peut-être réussir à me réchauffer. Et tu regardes l'heure, il est 8h37, tu vois, ou 9h34. Et tu sais qu'il te reste encore 10 heures à tenir.
Moralement, c'est difficile, hein. C'est très très difficile.
Vraiment. Et le lendemain, t'as pas dormi. Enfin, bref. Sac de couchage, fringues. C'est vraiment des trucs qu'on sous-estime en termes de qualité de vie dehors et mais dans la vie de tous les jours aussi, évidemment, tu vois.
Parce que tu vois, après honnêtement, en vrai, ça peut être dangereux parce que sinon, tu peux mal dormir, donc tu n'es pas attentif. Mais typiquement, moi, je vais pour illustrer ça, j'avais un Carinthia, le Défense 4, qui est un très bon sac de couchage. Mais le lendemain, chez moi, j'ai déballé mon sac, je l'ai vidé, et je me suis aperçu que sur le sac de compression, j'avais oublié de serrer la moitié des sangles du sac de couchage. Tellement, même si j'ai à peu près bien dormi, ben, tu vois, tu as quand même un peu d'inattention. Donc là, ça va, c'était pas trop grave, mais il y a quand même une attention qui diminue, une concentration qui est plus tout la même.
Non mais c'est clair, et ça va très vite, hein. En 2 mauvaises nuits, tu as déjà perdu une bonne quantité de pots de cuit, hein, franchement, pour l'avoir vécu plein de fois.
Oui.
Et rajoute à ça un peu de déshydratation, un peu de stress, un contexte qui change, une petite saturation mentale, ben en
Ah
fait, on
ben,
fonctionne bien en dessous de nos capacités normales, quoi.
ouais, les 3 secondes sans vigilance, elles arrivent très vite, hein, à ce
Très
moment-là.
très vite, ouais. D'où
Donc c'est pour
l'intérêt
ça.
des plans simples, quoi.
Voilà, et de vêtements adaptés et adéquats.
Ouais, grave, qui te permettent de ne pas réfléchir, en fait.
Exactement. Ben, c'est les mêmes enjeux que les militaires, hein. J'avais fait dans ma vidéo où justement j'expliquais que ça a du sens d'avoir un militaire qui soit bien enseignement parce qu'il doit, ça lui permet de se concentrer vraiment sur sa mission et pas se dire putain, je peux pas me jeter dans le trou pour me protéger parce que je vais tremper, ça va mettre des heures à sécher, quoi.
Mais c'est clair, t'as pas besoin de réfléchir. Et j'aime beaucoup les fringues pour cette raison-là, parce que ça rajoute de la liberté, en fait. Quand tu as bien réfléchi, bien fait tes devoirs sur ton système de vêtements, derrière, tu fais ce que tu veux et tu es libre et tu peux vautrer par terre, tu peux passer dans les ronces, tu peux prendre une pluie, prendre du vent, prendre du soleil, tu t'en fous, tout fonctionne et c'est juste parfait.
Mais l'impact psychologique, il est à mon sens énorme et sous-estimé.
Je pense aussi, ouais.
Ah
Je
ouais,
pense aussi.
l'impact psychologique, il est vraiment. Parce que quand t'as froid, vraiment, moralement, ça part vite en couille, quoi. Donc c'est pour ça qu'effectivement, le vêtement te permet aussi, dans des situations-là, de garder un bon moral, de rester conscient de ce qui se passe et, plus important, de continuer à profiter.
Est-ce que tu as une pièce de vêtement préférée?
Eh bien, alors, chez Bonne Gueule, on a sorti un pull en cachemire il y a 2 ans que j'adore, en cachemire écossais. Et le cachemire écossais, plus tu le laves, plus il devient doux. Donc là, il est juste génial. J'ai vraiment hésité à le prendre pour le stage parce qu'il a un côté très réconfortant, tu vois. Tu vois, je l'enfile, ça y est, je me sens chez moi, sous la couette. Moralement, tu vois, je me suis dit, est-ce que je le prends, je le prends pas. Mais je me suis dit, si je. Bon. Cette fois-ci, je ne le prends pas, mais ouais, donc ça, c'est une de mes pièces préférées. On a aussi une veste de travail, ben, comme un peu celle que j'ai en laine et coton indigo, qui se patine vraiment, que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est pour Bonne Gueule. Et c'est vrai qu'en ce moment, je ne te cache pas que la petite polaire américaine, là, elle est vraiment très cosy, je la kiffe pas mal. Quand je rentre chez moi, le soir, en ce moment, c'est la pièce que j'enfile par-dessus, quoi. Quand j'ai le petit pull en cachemire à même la peau et la polaire américaine par-dessus, je suis. C'est comme un bain chaud, en fait, tu vois. C'est ultra prélassant. Enfin, j'adore.
Je comprends trop. Moi, tu vois, ce vieux pull pourri, sweat à capuche que j'ai là aujourd'hui,
Oui.
c'est un truc que j'ai acheté, tu vois, c'est une merde, j'ai acheté dans une recyclerie, tu vois, j'ai
Oui.
payé 2 euros. Et je l'ai enfilé pour l'essayer et j'ai eu l'impression que ma maman me faisait un câlin, tu vois.
Ah, c'est
Ni plus
beau.
ni moins. Il ressemble à rien, il est tout bouloché et tout. Il y a des taches un peu suspectes dans tous les coins. Mais je le mets et il est chaud, il est ample. J'ai vraiment cette impression d'être à la maison, comme tu dis, tu vois. Et je le trimballe partout depuis. Et c'est dingue parce qu'hier, j'étais en rando, tu vois. Je suis allé faire mon petit training autour de la montagne ici et j'avais un peu transpiré, j'avais un peu froid, machin. J'ai sorti ce truc du sac, je l'ai enfilé et ça fait genre, ah, en fait, je peux rester là toute la vie, il n'y a aucun problème. Tu
Ouais, mais c'est psychologiquement, c'est énorme, en bien ou en mal d'ailleurs, hein, mais
Complètement. Et c'est hallucinant l'effet que ça a sur l'attitude et sur nos capacités dans la foulée. Et je pense
ouais.
qu'il y aurait une étude à faire là-dessus, tu vois.
Oui. Et moi, j'encourage vraiment tout le monde à se demander, ben, pour vous, c'est quoi votre vêtement réconfortant? Parce que c'est pas ce vêtement réconfortant, il pourra parfois vous aider vraiment bien.
Vraiment, je pense que ouais.
Donc toi, ce hoodie à capuche est l'une de tes pièces favorites alors que tu portes.
Ah, étonnamment, ouais, tu vois, j'ai plein de trucs. J'ai des Wool Power, machin. Ah,
Ben ouais,
d'ailleurs,
c'est ça qui...
un des trucs que j'ai beaucoup aimé porter pendant très longtemps, c'est un sous-vêtement Wool Power 200, tu vois.
Ouais.
C'est 200. Ouais, 200.
Ouais.
Avec les petites boulettes à l'intérieur
Ouais.
et
Ah ouais,
très stretch, très léger et très chaud.
Ouais, je vois laquelle tu parles.
Et ça, ouais, j'ai porté énormément, mais tout le temps, tu vois, comme un pull.
Ouais.
Mais j'aime beaucoup les capuches. J'aime beaucoup avoir un capuchon pour, tu vois, vraiment me mettre dans une bulle.
Ça, c'est le côté nord-américain, ça.
Ouais, je pense, ouais. Mais tu vois, je dors pas beaucoup la nuit, du coup, je fais la sieste la journée. Il y a une espèce de rituel où je me mets sur le côté, je mets le capuchon et le monde peut. Tu peux me faire pleuvoir des bombes dessus, j'en ai rien à foutre, je dors et je me réveillerai quand j'aurai fini, tu vois.
C'est une marque qui s'appelle Volbac, qui est un peu barré, qui a créé justement un hoodie avec une capuche, mais étudié pour que tu puisses te reposer et dormir.
Ouais.
Genre, tu vois, tu as un truc au niveau des oreilles pour t'isoler. Enfin,
Ah
c'est
ouais.
hors de prix, c'est une marque un peu branleur, mais parfois ils sortent d'événements vraiment marrants. Je t'enverrai le lien.
Ouais, moi j'aime bien les délires des gens sur le vêtement et sur la création, la créativité qui va avec, tu vois.
Ah ben, tu vas adorer Volbac alors, hein. Mais je t'enverrai le lien. Là, ils ont sorti une parka pour les contre les zombies et le shooting, ils l'ont vraiment fait avec une tête de zombie, des trucs comme ça. Elle est très très chère parce que tu vois, c'est un tissu en Dyneema qui résiste à un lance-flammes ou je sais pas quoi.
Ah, d'accord.
Mais bon, je reconnais, il y a une audace. Il y a vraiment une audace. Mais même
Ouais.
si parfois c'est un peu too much, enfin, je t'enverrai le lien, tu vas voir.
Pense qu'il y a un marché pour le too much aujourd'hui aussi, tu vois. Clairement.
Et toujours plus.
Ouais. Et donc, ton pull en cachemire et ta polaire de l'armée américaine, c'était deux vêtements.
Ouais, en ce moment, ouais. Et si, ben, si j'ai un pantalon Volbac aussi que j'aime beaucoup pour le voyage, justement, qui est ultra stretch, qui est vraiment bien. Mais sinon, j'aime beaucoup les pantalons laine, mais les bonnes gueules aussi, parce qu'en hiver, ils sont vraiment top. Avec un petit peu d'alpaga dedans, ils sont bien.
Et quand est-ce que tu nous fais un sweat à capuche en cachemire écossais bien coupé?
C'est on a alors les pulls en cachemire qu'on a sortis, moi je les adore, mais ça n'a pas pris beaucoup, donc je pense que le cachemire, on avait sorti un plaid en cachemire d'ailleurs aussi qui a marché bien sans plus, donc je pense qu'effectivement on a encore une, je sais pas, les gens sont pas encore sensibilisés à quel point le cachemire c'est cool, et du coup ils ont du mal à mettre le budget nécessaire
C'est vrai que
parce
c'est
que
un peu
c'était
cher.
Ouais, mais nous, c'était un cachemire écossais, tricotant Italie. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Il valait ça, il était à 220 euros ce pull ou 240, 220. Mais ça, chez n'importe quelle autre marque, il était facilement à plus de 500, 600 euros.
Ouais, facile.
Hein. Ouais.
Facile.
Mais
Et
oui.
franchement, pour avoir goûté au cachemire, mais Perso, je suis prêt à mettre le prix, tu vois. Si le jour où j'ai 400 balles ou 500 balles, je prends deux pulls en cachemire.
Bah, il faut que tu me donnes ton tour de poitrine et je verrai si on n'a pas un double ou triple XL en proto quelque part.
Hein. Bah, je vais remesurer parce que ça change un peu. Je me suis remis aux tractions dernièrement, donc ça a dû augmenter, tu vois.
Ouais.
Mais ouais, carrément. Et sinon, autre petit sujet, tu me demandais, tu n'avais pas des questions pour moi, je pense, je ne les ai pas notées, mais.
Ah oui, si, le vêtement idéal que tu n'arrives pas à trouver.
Ah ouais! Ah, alors ça, c'est une question de ouf. Le vêtement idéal que j'arrive pas à trouver.
Me réponds pas le poncho, hein, parce que
Non.
ils
Non, ça, c'est le
étaient.
délire à Julien que tu as vu
Ouais.
ce week-end. Et il veut créer le poncho ultime.
Ah ouais,
Et.
ils sont chauds, hein, sur le poncho.
Mais c'est franchement, son poncho ultime, il est vraiment ultime. Mais bon, bref. Le vêtement idéal que j'arrive pas à trouver. Alors, je l'allais dire, un pull en cachemire qui s'use pas, tu vois. Mais ça n'existe pas. On va rester dans le réel. J'aimerais beaucoup un jean qui soit un jean composite. Tu vois, un jean qui est des parties stretch et des
Ouais.
parties pas stretch.
Les parties pas stretch pour le côté et la résistance.
Ouais. Le devant des cuisses pas stretch
Ouais.
et l'articulation du genou stretch et le bas du pantalon pas stretch, l'entrejambe stretch et le bas des fesses stretch, mais le reste pas stretch, tu
Ah
vois.
bah, il faut un jean de motard.
Ouais.
Il y a des marques qui font ça en vrai. Hein.
C'est vrai?
Ouais, bien sûr. Ouais. Il y a une marque coréenne qui s'appelle Ugly Bros qui fait ça.
D'accord.
Voilà, qui est exactement ce que tu dis, parce que c'est, tu me cites les mêmes contraintes qu'un motard
Bah, moi, je veux bouger, tu vois.
a. Ouais.
Et j'ai horreur d'être limité dans mes mouvements par un vêtement. Pour moi, c'est rédhibitoire. Et j'aime beaucoup le côté stretch d'un vêtement. D'un vêtement, mais j'ai besoin qu'il soit résistant à l'abrasion. Et donc, j'avais vu, il y a certains flûtes Fjällräven qui sont bien foutus pour ça parce qu'il y a justement ces mêmes parties stretch et le devant, etc., qui sont bien costauds et bien résistants à l'abrasion. Mais ça fait pantalon de rando, tu vois. Donc, j'aimerais bien avoir un truc qui soit plus jean. Donc, ouais, je note. Mais j'apprends plein de trucs avec toi.
Je vais chercher. Mais ça, je suis sûr que ce jean que je lui ai écrit, je l'ai vu chez des marques de vêtements pour la moto.
Ouais.
Ah ouais.
Et avec les poches qui vont bien,
Ah, ça,
ça
ouais.
va être compliqué. J'aime beaucoup l'idée d'avoir une poche ou deux cachées, tu vois. Donc notamment au niveau du sacrum, avoir une petite poche sans zip, sans rien pour mettre un passeport ou deux trois trucs, et avoir des poches autour de la taille, tu vois, en plus pour mettre des petits objets, des petits trucs. La clé des menottes, tu vois, ce genre de truc.
Le côté, ils ont les Américains, ils ont un acronyme pour ça, pour survie et évasion. Je sais plus comment ça s'appelle.
Serré, Survival, Evade, Resist, Escape, je crois quoi.
Voilà, c'est ça. Tu veux un jean comme ça.
Ouais, exactement. Et il y a Ed Manifesto, je sais pas si tu connais Ed Calderon, c'est un Mexicain, c'est un ancien flic des narcotiques mexicains qui a émigré aux États-Unis. Et qui fait un blog, enfin, surtout une chaîne, enfin, un fil Instagram, et il a une chaîne Telegram aussi qui s'appelle Ed's Manifesto. Et lui, il a beaucoup bossé justement là-dessus, sur l'évasion et s'évader d'une captivité, parce que c'est un de ses gros stress en tant que flic des narcotiques d'être pris par les cartels et de se faire
Ouais,
maltraiter.
tu m'étonnes.
Et je pense qu'avec raison, tu vois. Et donc, il a sorti des pulls et des trucs, tu vois, avec des poches cachées pour mettre la clé des menottes, les fils coupe serflex et machin. Et c'est vachement intéressant, tu vois, dans le cordon du capuchon, il a des trucs. Mais j'adore ce délire.
Ah, il a sa ligne de vêtements du coup.
Bah,
Une
il a
petite
bossé
ligne.
en collaboration avec je sais plus qui pour créer des lignes de vêtements, ouais, enfin, des vêtements. Plus ou moins en one shot, mais ils en refont assez souvent. Après, ils ont aussi des couteaux, des petits kits de.
Faut que je te retrouve une marque américaine qui habillait les gardes du corps. C'était vraiment justement comment est-ce que tu fais pour avoir un costume où tu peux mettre un chargeur facilement et sans que ça se voit et avoir de la mobilité quand tu dois prendre une arme, etc. Ils avaient sorti un costume et une chemise exprès pour ça.
Yes. Alors, j'ai pas besoin de porter des chargeurs et d'une arme.
Oui, c'est vrai que vous n'avez pas trop cette culture d'armes à feu, ce que j'apprécie beaucoup aussi chez vous.
Ouais, enfin, c'est, j'ai rien contre les armes à feu, mais
Oui.
je pense que c'est pas du tout utile dans notre quotidien en France aujourd'hui, et tant mieux, tu vois.
Ouais, même en situation de survie, enfin,
Non, mais clairement.
effectivement.
Enfin, en situation de survie, tu vois, je suis perdu dans la montagne, ça va pas me servir à grand-chose d'avoir un flingue,
Oui,
clairement.
alors c'est assez marrant parce que chez certaines marques américaines, c'est dingue. Dans tous les kits de survie, tu as toujours un flingue chez
Ouais,
certains.
bah oui.
Oui.
Mais c'est le côté, c'est un peu le côté traditionnellement enfin, traditionnel des survivalistes américains qui sont, enfin, si on part de la fin de la guerre froide aux États-Unis, où c'est là que ça a commencé vraiment le mouvement survivaliste là-bas, c'était beaucoup des anciens militaires en fait qui ont pris le truc en main et qui ont structuré un peu l'idéologie du mouvement, etc. Donc forcément, c'est des mecs plutôt de droite, pro-flingue.
Ouais.
Conservateur et tout. Mais après, ça a vachement évolué là-bas aussi et tout ça. Et voilà, mais bon, bref. C'est très. La survie américaine, le survivalisme américain est vachement pro-flingue. Ouais. Et moi, j'ai un peu du mal avec ce côté un peu trash et un peu.
Très premier degré, finalement.
Ouais, c'est ça, tu vois. Et très, c'est très fantasmé au final, parce que tu vois les réfugiés ukrainiens aujourd'hui, bah, ils ont pas, enfin, soit ils restent, ils se battent, ils prennent une arme, soit ils s'en vont et ils n'ont pas d'arme, tu vois. Et
Ah ouais.
l'entre-deux est risqué, je pense.
Bah, je pense que tu as un réfugié avec une arme sur toi, à mon avis, ça te met vraiment en danger, hein, plus que ça te protège.
Bah ouais, c'est et tu. Direct au moins de passage de frontières, au moins de contrôle, ben tu rentres dans une catégorie de réfugiés très différente.
Ah ouais, ça, ouais, c'est pas le même délire, hein.
C'est pas le même délire. Donc c'est alors quand j'étais gamin, je regardais l'Aube Rouge, tu vois, où il y avait des étudiants qui fuyaient dans la montagne contre les méchants russes qui envahissaient leur petit bled, etc. Ils avaient tous des flingues et tout ça. Et j'ai vachement fantasmé là-dessus, mais concrètement, si on est réaliste, ça tient pas la route. Tu vois.
Ben, je pense que tu es civil et tu tombes sur l'ennemi, entre guillemets, et il voit que tu es armé. Compliqué,
Bah,
hein.
t'es plus civil.
Ouais,
Dans un
c'est.
point de vue, t'es plus civil, tout simplement, tu vois. Et c'est un peu. Enfin, je crains beaucoup l'entre-deux, justement, tu vois. C'est soit t'es militaire ou alors t'es un volontaire en Ukraine ou peu importe et tu fais la guerre. Soit tu veux t'en aller et pas faire la guerre, auquel cas, faut vraiment être identifié comme un non-combattant et être cohérent jusqu'au bout, quoi. Vraiment. Yes, putain, ça fait bientôt 2 heures qu'on discute.
C'est un plaisir en tout cas. C'est vraiment un
Carrément.
plaisir. Et je suis content parce que tu m'as donné plein d'infos sur toi, tes vêtements, tes marques, etc. C'est vraiment cool.
Yes. T'as encore le temps pour une dernière question ou pas?
Oui.
Cool. Je me demandais si. Enfin, tu parlais tout à l'heure de la résilience et des capacités de survie ou de résilience individuelle, mais est-ce que ta réflexion sur les fibres et sur les filières, etc., s'inscrit aussi dans une optique de résilience un peu plus nationale ou pas?
C'est le grand sujet à la mode, c'est la réindustrialisation de la France,
Ouais.
justement. Et toutes les grandes marques qui ont privilégié ce qu'on appelle le grand import, c'est-à-dire l'événement fabriqué très très loin, pour faire simple, sont en train de se dire on rapatrie tout le plus près possible. Et je pense qu'effectivement, et là, moi, à mon sens, ça devient un outil de résilience nationale. Mais on est face à un problème de main-d'œuvre. Tous les acteurs du secteur, particulièrement en France, n'arrivent pas à trouver une main-d'œuvre qui a envie de faire ce métier.
Désolé,
Donc,
il y a la voisine qui me fait des signes dans la fenêtre.
OK.
Je
Bonjour,
couperai au
elle.
montage. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça et j'ai vraiment l'impression, enfin, je sais pas si tu as vu le rapport de l'Assemblée nationale sur la résistance nationale, la résilience nationale, le beau lapsus, qui parle justement de réindustrialisation et de rapatrier la production, de réimpliquer les citoyens et de réimpliquer. En tout cas pour les industries stratégiques, mais je pense que On a tendance à sous-estimer l'importance du vêtement
Ah bah oui.
dans la stratégie et l'importance qu'on doit lui accorder, quoi.
Ben, le vêtement a façonné des économies mondiales. Hein. Je pense que c'est Didier qui t'en parlera mieux que moi, mais sur la culture de certaines fibres, le commerce de certaines fibres, ça a façonné littéralement des civilisations et des économies. Mais c'est vrai que pendant des années, on voulait une France sans usine. Tu vois, on voulait une France sans usine, sans industrie vraiment dans le dur. Et là, justement, on se dit, ben non, en fait,
Et
il
puis on a
faut.
vachement valorisé les filières, tu vois, intellectuelles, faire des études supérieures, essayer ça, mais pour moi, il y a une vraie fierté, enfin, il y a une vraie noblesse dans le fait de fabriquer un vêtement qui va tenir pendant 30 ans, tu vois. Tu vois.
Et d'ailleurs, tu as tous ces gens qui font des métiers intellectuels, certains d'entre eux, justement, le Covid ayant accéléré ça, qui ont envie de retourner à quelque chose de beaucoup plus concret,
Mais grave.
avec leurs mains. Tu vois, les petits couteliers, les gens qui font des petits sacs à dos dans leur cave, etc. Il y a effectivement, même pour ces gens-là, il y a cette envie d'avoir du sens et du concret.
Ouais, non mais je suis d'accord. Et il y a un vrai plaisir. Récemment, je me suis acheté une paire de pompes faites sur mesure à la main et tout, tu vois.
Chez qui?
Chez Origin. Ils sont dans le Maine, en fait. Et le délire, c'est que tu reçois, déjà, tu attends 4 mois pour avoir tes pompes parce qu'ils sont surbookés, ils ont un cahier de commandes énorme. Et tu reçois les pompes. Et tu vois les marques de couteau sur le bord de la semelle, tu sens l'odeur de la colle, tu vois. C'est une pompe qui a été faite par quelqu'un, tu vois, pour de vrai. Et la qualité de finition et le confort que c'est d'avoir une pompe comme ça, mais c'est ouf. Et tu vois, là, je mets des sous de côté pour en racheter une deuxième paire direct parce que je veux la même avec la semelle plus épaisse pour aller en rando, tu vois.
Oui, alors c'est vrai qu'en plus les Américains, ils ont vraiment réussi à garder cette culture de la bonne chaussure. De la bonne chaussure, voilà, à la fois rustique mais assez haut de gamme.
Et ouais, exactement. Haut de gamme et très bien fini et très bien étudié dans le déroulé du pied, dans plein de choses. Enfin, je
Ouais.
retrouve beaucoup ce que tu me disais sur le vêtement tout à l'heure dans ce
Ah
genre
ouais,
d'approche, tu vois.
nous, c'est pas trop le cas en Europe, mais en tout cas en France, mais aux États-Unis, effectivement, tu peux acheter tes chaussures en fonction de ta pointure, tu peux avoir plusieurs largeurs.
Ouais.
Et je pense que toi, à mon avis, tu dois avoir un pied qui ne doit pas être comme ceux des autres.
Ben non, j'ai un pied plus large que long quasiment, tu vois.
Ah ouais, bien, bien plat, vraiment le côté stable sur les appuis.
Ouais, exact. Et avec mon ossature, j'ai des chevilles énormes, tu vois, et mon ego peut-être aussi, tu vois. Et du coup, ça fait des, enfin, je suis impossible à chausser, pareil, tu vois. Et du coup, j'ai fait faire un peu, enfin, sur mesure, sur la base d'une pointure et d'une largeur, mais en demandant le coup de pied un peu plus gros etc. Et du coup, j'ai pour la première fois de ma vie peut-être des pompes qui me vont, tu vois, quand je les mets, ça me va direct.
Ouais, enfin, on appelle ça des cottage brands. C'est le nom pour dire se désigner ces petites marques quasiment artisanales, mais qui sont très qualitatives, que les avions ont beaucoup, hein. Notamment pour les sacs de couchage avec Western Mountaineering, que tu dois connaître, j'imagine. Enfin, ils ont les sacs à dos, ils sont vraiment. C'est ça que j'apprécie beaucoup sur le Made in Amérique, enfin sur le Made in États-Unis, c'est que ils ont gardé ce côté très pointu, quasiment artisanal, et voilà où les mecs ils font leur truc.
Ouais,
Ils font
puis
leur
t'as la
truc, ils
petite
vont.
usine, tu vois, la petite usine quasiment familiale où t'as peut-être 5-6 personnes qui bossent.
Y a une marque comme ça au
Et.
Canada hein, qui s'appelle Weilberg, qui est exactement comme tu décris.
Ouais, il y en a plein. Et Aiguille Alpine, dont je te parlais tout à l'heure en Angleterre, c'est la même, tu vois.
Ouais.
C'est vraiment une toute petite usine et très peu de gens. Puis, au Japon, il y a la même, hein,
Le Japon, c'est
la...
un autre monde encore.
Oui, j'imagine, mais tu vois l'usine Tokaido, les karatégi et tout ça, Tokaido, qui d'ailleurs sont tissés, sont cousus dans de la toile qui ressemble vachement à du selvedge
Ouais.
et qui est tissé par des moulins, par des métiers que les Américains ont laissés en fait en partant.
Ah oui, les fameux métiers à navette, les shuttle looms.
Voilà, exactement. Et
C'était.
c'est de la toile indestructible. J'en ai un, ça fait franchement. Depuis, je l'ai acheté en 97.
Ah ouais, parce qu'il ouais, faut une. Et puis, c'est des toiles qui ont beaucoup d'âme, je trouve, beaucoup
Ouais.
d'ingrédients que j'aime beaucoup, notamment sur les machines et sur la
Grave.
qualité du fil utilisé aussi. Ben,
Sens.
je te conseille un livre qui s'appelle Ametora, qui raconte comment, en 100 ans, au Japon, sont passés d'un pays qui produisait des uniformes à l'un des pays les plus pointus sur le sujet du vêtement, mais c'est vraiment bien raconté. C'est un super, super ouvrage que je conseille à tout le monde, qui raconte
Yes.
l'émergence du jean japonais. Toutes ces choses-là, enfin, c'est du streetwear japonais aussi, c'est vraiment hyper intéressant. Ça se lit très facilement en plus.
Carrément, je vais lire ça. Yes, le mot de la fin.
Prenez du plaisir avec le vêtement. Voilà. Si ça vous tient, si ça vous protège du froid, du chaud, de la pluie, etc., c'est très bien. Et si ça vous fait kiffer, c'est encore mieux.
Carrément. Bon, ouais, je vais m'y mettre, promis.
Ok.
Benoît, je te remercie infiniment
Merci
d'avoir
beaucoup.
nous avoir accordé tout ce temps parce que là, ça fait, on est à 1h50 d'interview. Je suis que t'es fort occupé, donc merci d'avoir pris le temps.
Merci à toi.
Et bah, j'irai vous voir bientôt chez Bonne Gueule à Paris.
Mais au plaisir.
Alors, si vous voulez soutenir le podcast, ben, partagez-le s'il vous plaît. C'est fait pour être écouté. D'ailleurs, j'ai rien à vous vendre. Je fais pas de pub, je fais pas de sponsoring, je fais rien du tout. Le but, c'est que ça soit gratuit, que ça le reste. Vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, et c'est pas obligatoire, faire un petit don. Vous allez sur le site www.survivalogue.org et vous cliquez sur le petit onglet soutenir le podcast. Et là, vous avez un petit onglet pour faire un don par CB sécurisé jusqu'à, enfin, à partir de 1 euro. Donc, tous les petits dons sont vraiment appréciés. Et voilà, et pour le reste, eh ben, restez pipou.